Cette émission vous est présentée par
Decathlon.
Top 10 des meilleurs pivot all time.
C'est lundi. C'est le meilleur jour de la semaine.
Yes sir.
Petit top 10, ça faisait un petit moment qu'on se disait qu'il allait falloir updater les pivots all time.
Bastien, Alex, c'est quand que vous faites l'update du top 100? C'est quand que vous faites l'update du top 10?
Ah, l'update du top 100, ouais, ça c'est encore un autre taf.
Ça va venir, c'est sûr et certain.
Bien sûr, mais c'est un taf, à l'époque je me souviens la préparation du top 100, le temps que ça avait pris. Donc là il y a
pour 2 ans.
Ouais, disons qu'il y a, et puis il y a un nombre de gens à soit à bouger, soit carrément des gens qui y étaient pas du tout. Et qui rentre, genre, c'est pas qu'il rentre en place 83, quoi, c'est que. Il rentre, quoi. Hein,
et... On fait quoi du Slovène, on fait voilà. Quoi du Canadien, on fait quoi du Grec, on fait quoi
le
du.
Le Serbe surtout.
Le Serbe.
Bah, le Serbe,
on va peut-être parler du Serbe.
Voilà, exactement.
Vous êtes bien évidemment avec nous en ce lundi de l'an de grâce 2026. Et oui, c'est l'heure de l'update du top 10 des meilleurs pivot all time. Calmez-vous, les fans des Sixers, doucement, Nuggets Nation. Je sens qu'ils sont en train de se frotter les mains à se dire, mais où est-ce qu'ils l'ont mis, bon sang? Comment ça, il est pas top 1?
Non,
peut-être qu'il est top 1.
Doucement, la Saints Nation. Mark Williams, c'est un peu court encore.
C'est ça. Eh, allez-y mollo avec Moussa Diabaté. On a quelques années encore devant nous.
Mention.
C'est que mention honorable, on ira. On est très très impatient à l'idée de faire ce top 10 et cet update avec vous parce que on va devoir tout faire évidemment dans l'ordre, hein. Notamment qu'est-ce qu'on mange, la mention des poteaux Décathlon. Mais avant ça, Alex, je replace le contexte. Nikola Jokic est revenu là de blessure récemment au moment où on parle. Si certains regardent cette vidéo dans 3 ans, sachez que Jokic s'était blessé un petit peu et qu'il revient à un rythme tout à fait convenable. Et quand on a parlé tous les deux, notamment de l'update de ce top 100, de ce top 10, pardon. Est-ce que tu peux me rappeler, c'est quand la dernière fois qu'on a fait un top 10 des pivots all time?
Alors, c'était en 2016. C'était il y a 10 ans. il est sur la chaîne, hein, il dure 12 minutes.
Ouais.
12-13 minutes, vite fait, bien fait. On avait commencé par commenter le top 10 à l'époque qui avait été fait par ESPN. Après, on avait donné le nôtre. Niveau de pertinence, il y a des choses intéressantes qui sont dites même en 12-13 minutes.
Oui.
Le point de repère plus proche que moi j'ai pris pour repréparer, en tout cas ici, ce top 10 all time des pivots, c'est ce qu'on avait fait au moment du top 100.
Top 100, évidemment.
J'ai ressorti à l'intérieur du top 100 les pivots et dans quel ordre je les avais classés et tout.
Donc ça, c'est pareil.
Logique, puisqu'il y a pas mal de. Il y a énorme. On va pas dire combien parce que sinon c'est un spoil, mais il y a la plupart des pivots qui sont dans ce top 10 ont terminé leur carrière, genre terminé quoi, depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans pour certains. Donc a priori notre jugement ne bouge pas. Après tu peux toujours changer d'avis, mais bon, c'est quand même à la marge.
Certains sont même plus là.
Ah bah, il y en a plusieurs hein, qui sont plus là.
Ouais.
Et donc, c'était intéressant de voir comment je les avais classés, comment tu les avais classés au moment du top 100 all time. Donc ça, c'est une première base. Après, la deuxième question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les entrées possibles?
Combien il y en a?
Est-ce qu'il y a des changements dans le classement et quelles sont les entrées possibles? Et si oui, combien il y en a? Voilà. Et pourquoi? Et quels sont les dossiers? Et comment tu compares un dossier d'un mec en cours de carrière à des mecs qu'on finit et tout. Voilà.
Non, c'est chaud, c'est chaud. D'ailleurs, c'est vrai qu'on peut ajouter à tout ça que vous le savez, certains qui peut-être débarquent sur la chaîne ne le savent pas, mais le poste de pivot dans l'histoire de la NBA, attention, classement bien vénère. On a des monstres sacrés. C'est un sport qui a été dominé par les pivots pendant des décennies. Et donc, du coup, autant c'est plus facile sur des postes extérieurs. On a pu mettre des updates d'ailier, d'arrière, de meneur. On a dit wow, il y a des occurrences nouvelles dans tous les sens parce que le basket, au fur et à mesure, s'est axé sur l'extérieur. Autant là, en gros, ce que je voulais dire et te lancer, Alex, c'est que pour faire sa place dans certains classements des postes extérieurs, tu joues des coudes, mais il y a des sièges pour s'asseoir.
Dans le top 10
le
des pivots,
de pivot,
c'est compliqué.
Mets tes protège-coudes, mon pote, parce qu'il y a des mecs pour les déloger. C'est hardcore.
De toute façon, une preuve toute simple. Dans tous les deux, top 100 all-time, tous les deux, on avait Hakeem Olajuwon, 11e du top 100 all-time. Il n'est que 5e des pivots. Hein. Voilà. Si tu prends notre classement top 100 all-time, c'est le 5e pivot.
Puis Moses doit être pas loin.
Moses, moi je l'avais 14 et toi tu l'avais 12. Voilà, si tu prends même le top 20, en gros,
poste de pivot, c'est...
tu as dans le top 10 all-time des pivots, tu as potentiellement déjà 5 des 10-12 meilleurs joueurs all-time. Donc bah, pour aller faire la place là-dedans, bah, c'est vrai qu'il faut piquer, quoi. Faut piquer fort. Faut,
exactement.
Voilà.
Et pour que vous puissiez participer aussi, parce que évidemment, il y a 2-3 joueurs auxquels on pense actuels qui peuvent essayer de jouer des coudes. Alex, on va quand même rappeler les arguments, parce que les top 10, à chaque fois, on en fait des sujets différents, mais là, ce que je trouve intéressant, c'est que on va évidemment parler de palmarès collectif, de statistiques individuelles, de longévité, d'impact, de côté du terrain, de tout. Mais attention aussi à recontextualiser, c'est-à-dire qu'on va avoir des joueurs qui ont joué dans la préhistoire de la NBA. On a des joueurs qui sont dans l'ère moderne et où, quand on a des longs runs avec plusieurs trophées individuels, comment ça se compare avec d'autres qui ont été des excellents pivots fondamentaux d'équipes qui remportent des titres. Enfin, il y a plein d'éléments importants à prendre en tête.
Il y a les paramètres habituels d'un top 10 all-time, hein, faut avoir gagné des titres individuels et collectifs. La longévité est un critère important. Les stats que tu as pu fournir sont importantes également. Est-ce que tu as dominé ton poste quand tu étais en place? Est-ce que tu as carrément dominé la ligue quand tu étais en place? Aussi, également, quand tu dis contextualiser, évidemment, c'est-à-dire qu'on est sur du all-time, donc. Je sais que c'est difficile comparer les époques et tout, mais nous à l'époque on avait fait ça quand on a fait le top 100. Et d'ailleurs, les pivots les mieux classés chez toi et chez moi sont des mecs qui ont fini leur carrière depuis un bail.
Oui.
Mais même s'ils ont joué dans une NBA très différente de celle d'aujourd'hui, bah on valorise quand même leur performance.
Oui.
Et donc après, oui, c'est de la pondération, c'est de la discussion. C'est aujourd'hui, on a un peu plus de, pas un peu plus, on a beaucoup plus de stats et notamment de stats avancées pour évaluer les performances de chacun. Mais tu peux pas non plus te baser que là-dessus.
Oui.
Enfin bon, il y a combien moi tout si je fais mes 10, ouais, si je fais mes 10.
Attention.
Je regardais juste, est-ce que j'ai vraiment des mecs qui ont rien gagné? Genre, tu sais, rien, quand je dis rien, tu gagnes jamais vraiment rien, mais comment dire, individuellement et collectivement, il n'y a pas de très gros trophées, quoi. J'en ai.
Il y en a un.
Voilà.
Il y en a un et.
Bah voilà, c'est tout.
Et peut'être qu'il sent qu'il y a de l'air là dans la
Ça lui souffle, ah bah ça c'est sûr et certain.
Souffle.
Ah bah ouais.
Parce
qu'en
plus, là on se marre, mais on a eu toute une ère, là, notamment réservée sur les. Sur les ailiers, sur les meneurs, on a eu là une décennie extraordinaire. Il y a du pivot qui revient fort. Il y a du pivot nouvelle génération.
Nouvelle génération, nouveau style de jeu, mais.
Absolument.
C'est des pivots et ils sont là, ils dominent.
Tout à fait. Pour l'information, je le rappelle, le top 10, puisque tu donnais la date tout à l'heure des top 10 des pivots all-time, on l'a sorti le 29 février 2016.
C'est ça, c'était il y a 10 ans.
Ouais. Absolument. Voilà. Et je voudrais juste rappeler Jokic a été drafté en 2010. 15.
Ouais. Non, 14. Okay.
2014, tout
ouais,
à fait.
Voilà. Bah, comme Embiid, non? Il me semble. Je crois que c'est la même draft, non?
Ah ouais?
Je crois. C'est pas la même draft. Puis Embiid,
draft 2014, mais, Embiid est 3ème.
Oui, voilà, mais Embiid joue pas pendant au moins.
C'est ça.
C'est quoi la première et la deuxième saison?
C'est
Embiid,
ça.
Où il joue
et
pas
Jokic est 41ème.
Oui, bon, ça on
après,
la connaît.
On va parler de 41 Towns, vous en faites pas. On va parler de plein de pivots comme ça qui ont leur place dans le top 10.
Pourquoi tu as un petit sourire en coin?
Ça m'a. Oh là, ah oui, c'est bon, j'ai peur. Non, moi je souris pas du tout. C'est juste que.
Non,
voilà,
non, mais oui,
j'ai un petit rictus.
On va citer quelques mecs actuels. On va aussi reciter quelques mecs anciens. Non, non, il y a du gros monde. Il y a du gros monde.
Frottez-vous les mains, préparez vos arguments. On va commencer dans quelques instants. Avant ça, évidemment, le classique, vous le savez, qu'on parle de pivot, de meneur, derrière, d'ailier ou d'ailier fort. Ils sont avec nous tous les lundis sur les top 10 et ils sont très très forts. Ce sont les poteaux de Décathlon avec, comme d'habitude. La paire
d'un pivot.
Canaveral.
D'un pivot
Alexar. Est-ce que Alexar fait partie de ce top 10?
C'est pas un spoiler. Il est pas dedans.
Ah.
Est-ce qu'un jour il aura le niveau et la carrière pour rentrer dedans? Écoute, on lui souhaite très fort, hein, parce que si c'est le cas,
je peux dire que le palmarès des Wizards
et le palmarès de l'équipe de France aussi peut-être.
Ouais.
Parce que bref, les pivots français, c'est une denrée en ce moment en NBA.
On en voit.
T'as quand même combien d'équipes? Il y a 4 équipes NBA qui ont un pivot français titulaire.
Ouais.
Putain, hein, quand même.
Ah non, mais nous,
genre,
c'est,
pardon,
c'est bizarre.
Bonjour. Bonjour, c'est nous.
Alexar, évidemment, que vous pouvez retrouver avec la paire Canaveral et qu'on a très très hâte de voir évidemment en duo avec un ailier fort, Anthony Davis.
Ouais. Bon, ça, c'est pour pas tout de suite. Hein. C'est pour, je veux dire, on aura peut-être updaté le top 100 d'ici là.
Ouais, tout à fait. dans tous les cas, en premier commentaire de cette vidéo, vous le savez, vous pouvez retrouver les poteaux Décathlon. Moi, je porte évidemment aussi le merch Spurs.
Ouais, il y a la bleue. Donc, Bastien vous a montré, il y a une noire quelque part.
J'ai la noire qui est juste
ouais,
là.
Il y a une noire et il y a une blanche qui est disponible sur le site de Décathlon. On l'a pas encore entre les mains. C'est de la bonne paire, légère. T'as
abordable.
T'as un joueur à 90 balles, ça je le répète à chaque fois, mais franchement, une paire NBA, puisque c'est la même paire, hein, Alex Sarr, il joue avec la même chaussure en NBA. T'as aussi des joueurs professionnels en Europe et tout qui jouent avec cette paire. C'est la même paire, bon bah évidemment, sauf que lui, Alex Sarr, il chose du je sais pas, du 52,
56,
ou 53,
on a vu la
ou un
paire,
truc
là.
Comme ça. Enfin bref, voilà.
Un truc, un
voilà,
téléphone.
Une pointure
quoi.
Un peu plus grande quoi, que le commun. Mm-hmm. Mais c'est la même et elle est à 90 euros. Ça, là-dessus, Décathlon, respect.
Également, vous le savez, vous pouvez retrouver tout le merch. Donc voilà, moi je porte le Spurs parce que peut-être qu'on va avoir une petite occurrence.
Tu crois parce que je...
Oh là 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 là
au hasard, j'ai mis un sweat. Je me suis dit, allez.
Allez, on va voir si c'est de circonstance. Dans tous les cas, voilà, cœur sur les poteaux de Décat, évidemment. Avant qu'on démarre, les pivots, ce sont souvent des beaux golgots, des beaux bébés qui vont à la cantine. Alex, la question du lundi, qu'est-ce qu'on mange?
Un petit saucisse purée, tiens. Tout simple, efficace.
Morto?
Oui, très bien. Morto, très bien. Morto purée. J'aime beaucoup.
Morto,
oui.
Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Morto
purée. Montbéliard.
Et pourquoi pas. Ou Toulouse. Non, mais vos saucisses. La provenance de la saucisse, ne le prenez pas mal, mais ça va fonctionner quoi qu'il arrive avec de la purée.
Ah, oui.
Oui,
mais
oui,
attention,
voilà.
Parce que tu vas créer des. Oh
oui,
là
mais
là
non.
Là.
Voilà.
Si tu commences à me dire Montbéliard, Toulouse,
même
Morto,
si vous voulez mettre
ça.
De la Francfort, ça me va très très bien.
Très très bien, la Francfort.
Oui, bien sûr.
Bien sûr.
Voilà. Donc voilà, saucisse purée. Ouais.
Grand classique, moi je vais partir sur un mafé. Après, je sais que certains le font différemment, soit avec, j'ai entendu même parfois agneau, mais entre poulet et bœuf, moi plutôt bœuf. Hein. Bœuf mafé, bœuf, hein,
moi aussi.
À titre personnel. Après, vous faites ce que vous voulez. Je vous laisse évidemment nous partager ce que vous mangez en ce lundi spécial pivot. Ça va grailler très très fort. Est-ce que tu es prêt, Alex?
Je suis prêt.
On va commencer, puisqu'on a les tablettes qui sont là, avec
par où
des mentions honorables.
Okay.
On peut envoyer 2-3 mentions honorables. Est-ce que tu en as une première à envoyer comme ça, où tu sais que ça ne rentre pas dans le top 10, mais tu veux quand même lui donner un peu de love?
Oui, j'ai des mentions de gros pivots à l'ancienne qui ne rentrent pas dans mes 10.
Dis-moi,
la plus grosse de toutes, c'est Georges Mikan.
Tu veux que je
qui, oui, vas-y, tu peux. Qui, à l'époque, quand on a fait le top 100, si tu prends... Mais que si tu isoles de mon top 100 mes pivots,
oui.
En dixième, j'ai Georges Mikan.
Tout à fait.
Donc, spoiler, ça veut dire que j'ai au moins une entrée.
Pépère,
dans mes
il
10.
Est à droite.
Ouais, il est à droite avec les lunettes. Les Minneapolis Lakers, on parle d'un pivot qui était un des tout premiers vrais grands, 2m08, 2m10, à peu près, Georges Mikan.
Première légende NBA, ouais.
Seulement cette saison en NBA, 450 matchs, ou je sais pas exactement. Par contre, bon bah il y a 5 titres hein, en cette saison. C'était une autre NBA, c'était complètement différent. Il
Easter
était à l'époque, je le dis, voilà, il était dixième parce que là vraiment, on est complètement dans un autre style de jeu, on est complètement dans une autre NBA. J'ai un autre pivot beaucoup plus connu que j'ai beaucoup plus haut qui est dans la NBA de juste après, on va dire de juste après Mikan, mais qui a quand même performé encore beaucoup plus. Mikan, la carrière elle est un peu plus courte, il y a une domination, mais on a beaucoup de mal à la contextualiser. Donc à l'époque, moi je l'avais mis, c'était le dixième de mes pivots dans le top 100. Là, j'ai au moins une entrée, donc il sort. Donc grosse mention évidemment pour Mr. George Mikan.
Monsieur George Mikan, dont on a fait le profil complet dans le top 100, pour ajouter évidemment sur ce qu'a dit Alex, la première superstar de la NBA.
Voilà.
Moi aussi, n'est pas dans le top 10 d'aujourd'hui updaté.
Toi, tu l'avais, toi aussi, c'était ton dixième.
Oui, c'était mon dixième. Légende absolue qui a notamment posé les bases de certains échauffements et entraînements qu'on a aujourd'hui hein, dans le basket mondial. Et puis, bah, pour ceux qui ne le savent pas non plus, hein, il est devenu ensuite commissionneur de la ABA.
Ouais.
Et l'un des premiers à avoir dit il faut absolument démocratiser la ligne à 3 points, c'est Pépère.
Ouais, non, mais George Mikan, personnage extrêmement important de l'histoire NBA.
Trop important, tout à fait. Je fais juste une petite mention, évidemment, pour monsieur Dave Cowens, que
ouais,
je peux montrer,
pareil.
Évidemment, qui ne fait pas partie de tes 10.
Non, Cowen, bah non, parce que déjà dans le top 100 à l'époque, je l'avais derrière Mikan. Donc là, il aurait fallu changer d'avis entre Cowens, Mikan et tout. Ça peut arriver de changer d'avis, attention, moi j'ai pas de problème avec ça, juste là c'est pas le cas.
Pivot légendaire à Boston, qui s'est notamment battu, bien battu, hein, dans les années 70 avec certaines légendes comme un garçon dont on va reparler dans quelques heures, hein, qui jouait avec un joli skyhook, comme on dit, Dave Cowens, pivot de métier, de devoir, joue des coudes, pas un flashy offensif, mais totalement dans la mentalité Celtics, c'est-à-dire se défoncer pour l'amour du maillot. Il a été MVP, il a été champion NBA, été MVP hein, Dave Cowens, hein, notamment avec les Celtics.
C'est sûr.
Oh, bah, on doit être en 76 avec JoJo White, MVP des finales, ou en 72.
Attends, Dave Cowens, il est MVP en 73.
73.
Il est champion deux fois, ouais, 74 et 76. Et est-ce qu'il a eu... Il est dans la team 75, il est dans la team des 75 ans, même si c'est pas un gros critère, attention.
Non,
hein,
tout à fait.
Mais juste, il est dans la team des 75 ans, il a été rookie de l'année.
Les 75 greatest. Hein.
Voilà, les 75 greatest. C'est un mec qui était aussi bien All-NBA que All-Defensive aussi, donc ça montre aussi le côté two-way. Hein. C'est un top 10 qu'on a fait il y a pas longtemps sur les joueurs actuels, mais ça serait intéressant à faire en all-time, ça.
Les two-way.
Les two-way all-time. Non ? Ça serait sympa, non ? Tu sais qu'il y a du client.
Oui.
Il y a des immenses clients.
Ah bah, il y a des mecs extraordinaires. Un rookie de l'année, MVP, toutes les questions.
Je pense que j'ai pas déjà mon 1 de manière évidente, moi.
En tout way ?
En tout way, je pense que j'ai mon 1 de manière évidente, en fait. Bref, mais à discuter. Je suis pas sûr, en fait, que ça soit si évident. J'en ai un qui me vient en tête tout de suite, mais je sais pas si. Faut que je regarde un peu plus près. Mais voilà, Dave Cowens, ouais, Hall of Famer et tout. Bon, là, sans rien vous cacher, il y a des Hall of Famer dans la liste. Hein, là,
bah, qu'il l'est pas.
Bah, les mecs, ils ne le sont pas encore.
Voilà, mais là, demain, ils décident de prendre sa retraite, Michel ou Michel, et ils sont Hall of
Famer. A priori, oui. Voilà. Ah oui, oui, oui. Bah, vu les mecs qu'on rentre. Pardon. Allez, je veux pas rentrer là-dedans, ça me saoule.
Dernier garçon dont je voulais parler, parce que, évidemment, il ne sera pas dans les 10, mais il fait partie de cette actualité. On a un astéroïde, une étoile filante qui est en ce moment en NBA, c'est monsieur Victor Wembanyama. Alors, qui n'est pas dans les 10 all-time, évidemment, ça c'est très très clair, n'a pas encore de grand accomplissement collectif en NBA, et on va voir après pour le développement, ça ne fait que 3 saisons. Hein. Mais par contre, moi je voulais juste le mentionner, Alex, c'est quand même un truc moi qui me fascine, c'est que cette phrase n'existait pas il y a 5 ans. J'ai très hâte de faire les updates dans quelques années, parce que là, ce que l'intégralité de la NBA et des observateurs qui adorent ce sport voient, c'est qu'on est sur un jeune phénomène pivot qui pourrait devenir tellement dominant qu'il viendrait discuter avec ces gars-là. Mais on lui souhaite.
Oui, voilà. Mais je sais pas. Pour l'instant, c'est que de la hype. Il a fait des trucs sur le terrain, mais pour rentrer dans ce classement, il va falloir rester longtemps.
C'est un pivot.
Il va falloir gagner. C'est un pivot. Je pense que défensivement, évidemment que s'il continue à ce rythme-là, il va rentrer dans les meilleurs. Après, offensivement, il montre des choses très intéressantes, mais par contre, il va falloir beaucoup plus. Enfin, je veux dire, pour l'instant, c'est que de la hype. Je pense que pour l'instant, il est tellement pas dans la discussion.
Non, mais je voulais le mentionner
mais
quand même.
Bien sûr, on le mentionne.
Parce qu'en fait, Wemby est un pivot. Hein, on va pas commencer à discuter chez les ailiers forts.
Ah oui, non.
Et c'est un rookie de l'année qui est déjà deux fois All-Star, qui va essayer d'amener les Spurs loin en playoff.
Il peut être MVP.
Il peut être MVP. Il peut être défenseur de l'année.
Voilà,
combien de fois.
Non, il peut tout à fait.
Donc, c'est pas non plus une mention, tu vois.
Il a tout à fait le potentiel pour aller cocher plein de cases.
C'est pas Chet Holmgren.
Bon, t'en sais rien. Chet Holmgren, ça se trouve, il va cocher plein de cases aussi.
Et
hein.
Je pense qu'il va le faire parce que ça fait partie aussi de ces garçons où s'il est plusieurs fois défenseur de l'année ou soldat d'une équipe multititrée et qu'il a la longévité, peut-être qu'il discutera dans ce classement.
Il a un avantage aujourd'hui sur Wemby, par exemple. Chet Holmgren, il a déjà une bague. Je sais que c'est un titre collectif et que voilà, mais
c'est un des trois meilleurs joueurs d'une équipe.
Elle est là,
absolument.
Ça compte.
On est bon sur les mentions honorables ?
Oui,
parce qu'après on va.
Oui, parce qu'après faut voilà,
laisse planer un petit peu. Je te propose de prendre la tablette.
Allez, tablette.
Tablette. Et attention, moi j'ai très très hâte aussi d'une chose, c'est de voir, vu comment ça s'est passé ces dernières années, si en fait avec Alex on a exactement le même top 10. Je vais voir. Je pense pas, mais
je sais pas.
Je me pose la question.
Tabletas, donc là je m'en rappelle, j'avais eu le même dilemme à l'époque quand on a fait le top 100 all time.
Ouais.
Et du coup, je me suis dit, allez, je garde le même ordre qu'à l'époque.
Eh bien, j'ai monsieur Patrick Ewing en 10, et toi tu as Willis Reed.
Voilà, bon après, à l'époque, dans mon top 100, Willis Reed, moi, était 30e et Patoche était 29e. Donc je vous laisse deviner qui est mon 9e pivot, hein, mais en gros. Gros dilemme entre ces deux pivots des Knicks. Il y en a un pour moi qui est intrinsèquement le meilleur joueur des deux côtés
Patrick
du terrain.
Ewing.
Patrick Ewing, plus technique en attaque et rien à envier à Willis Reed en défense
non,
et
non.
Tout.
Surtout pas, non, évidemment.
Oh, attends, Willis Reed en défense,
oui,
attention.
Mais Patrick Ewing en défense.
Voilà, au rebond et tout, deux gros monstres, deux gros leaders des Knicks et tout. Et Willis Reed, malgré Willis Reed a l'avantage de lui avoir deux bagues, d'avoir été MVP des finales,
MVP de saison régulière.
MVP de saison régulière. Donc en gros, lui, il a une armoire à trophées collectives et individuels plus remplie que Patrick Ewing.
Ah bah ouais.
Donc ça peut tout à fait justifier de mettre Willis Reed devant Patrick Ewing, juste à un moment donné. Et oui, c'est le côté médiatisation et tout, mais juste à un moment donné, les Knicks, c'est Patrick Ewing.
Ah si.
si, si.
De
si,
l'ère
si,
moderne, si. J'entends.
Oh, même pas que de l'ère moderne, ça commence à dater, hein, ça a 30 ans maintenant.
Oui, bien sûr. En fait, je suis d'accord avec
oui,
toi.
Oui, si, si, ça a 30 ans, putain. Oui, c'est
quand
ça,
tu penses
dire.
Knicks, tu vas très très vite penser à Patrick Ewing, ça je suis d'accord, parce qu'en termes de symbole, c'est Pat, et puis c'est aussi plus moderne.
Et de durée aussi dans le temps, et Patrick Ewing, il a joué quoi 15 saisons avec les Knicks
ouais,
avant de se faire trader.
Ouais, je vais montrer les stats notamment. Hein. Pat Ewing, moi je l'ai mis en 10, et on va en parler dans quelques instants là pour voir.
Il y a une bataille quoi.
Oui,
ils sont là les deux. De toute façon, toi et moi, on les avait en bataille. On les avait en bataille dans les, autour de la ouais. place 30 tous les deux.
Pat Ewing, rookie d'année 86, la première draft avec la fameuse enveloppe bien bien froide, hein,
voilà.
membre de l'équipe des 75 greatest, 3 fois all-defensive, souvent considéré comme un des meilleurs pivots défensifs de tous les temps, 11 fois all-star. Regardez ici sur les saisons avec nos amis les Knicks, on est généralement sur du 20 points avec 11 rebonds
ouais,
et 3 contre,
25,
hein,
ouais,
2-3
voilà, ouais,
contre.
Ouais.
Et donc c'est All-Star, 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 All-Star. Je suis d'accord avec toi, Patrick Ewing, quand tu penses
mais
au Knicks.
C'est
lui.
Vraiment une discussion hein, entre Ewing et Reed.
Mais j'ai l'impression que, oui, individuellement, Pat Ewing est un meilleur joueur, évidemment, au global, si on prend les skills. Hein. Là, je suis d'accord, c'est un peu meilleur que Willis Reed. Par contre, même si la phrase, je l'entends sur tu penses au Knicks, tu penses à Patrick Ewing, ou en tout cas, les Knicks et Patrick Ewing, ce que tu disais.
Elle est pas de moi, elle est de Jordan. Hein.
Oui, voilà. Bon, après,
c'est son pote.
C'est son pote et qu'ils sont de la même génération. J'ai l'impression que dans l'histoire des Knicks, Willis Reed, Patrick Ewing. C'est-à-dire que, comme tu le dis, c'est quand même un mec qui est tellement the capitaine, qui a été le cœur et les poumons de ces Knicks, qui sont les meilleurs Knicks de l'histoire, en fait, dans les années 70.
Et c'est
la
ça,
fin
le
des années 60, début des années 70.
C'est pas pour faire offense à Willis Reed, hein, mais on parle tout le temps Willis Reed qui rentre sur le terrain avec son mollet et tout, c'est incroyable comme image et tout. Mais le gars qui fait gagner la finale aux Knicks, c'est qui? C'est Walt Frazier.
Oui, mais c'est pas.
Ah bah quand même,
oui,
il envoie un triple double et tout.
Oui, mais c'est pas Chet Holmgren, Willis Reed.
Ah
enfin,
non,
je veux dire, par
c'est
là,
pas
c'est,
ce que je dis.
C'est
ah
un
non, non.
MVP et un MVP ensuite qui a été très respecté.
Ce que je veux dire, c'est que je mets en perspective. Les titres collectifs de Willis Reed, je les mets en perspective avec le fait que bah, le patoche, j'aurais bien voulu qu'il joue avec un meneur comme Walt Frazier.
C'est
ça, que je veux dire en fait.
Moi, je malheureusement pour
voilà.
Pat,
oui,
il va
oui,
peut-être
oui,
devoir
oui.
laisser sa place bientôt. Parce que c'est vrai que.
Ah bah, patoche, ça souffle dans son cou. Hein. Willis Reed et patoche, de toute façon,
ouais.
les deux, hein, ça
les
souffle.
Deux. Je veux bien l'avis des fans des Knicks. Dans quel ordre vous les avez, les deux? Je montre juste le palmarès et notamment les accomplissements de Willis Reed.
Ah non, monsieur.
Hall of Famer, équipe des 75 ans, évidemment. MVP de série régulière en 70. Rookie de l'année.
Combien
lui
de temps
aussi.
Est dure sa carrière à lui?
Lui, c'est 11 ans, max,
ouais,
9
c'est
ans.
Ça, ouais.
C'est 65-74.
Bah, 10 ans, c'était écrit là, je suis quoi.
Ouais, ça.
Ouais, ok.
Mais quand il est sur les parquets, voilà,
ah
c'est-à-dire
non,
que
bien
il
sûr,
a été
il
soit deuxième du MVP, soit top 4 évidemment. On était à une autre époque. Ce sont pas les mêmes, même si c'est des stats très très fortes. Hein.
Il est dominant. Il y a rien à dire.
Il y a ce côté. Moi, je pouvais pas enlever deux fois champion NBA et aussi parce que bah, on va arriver dans la suite du classement. J'aime bien les joueurs qui ont été très forts, mais tu l'as très bien dit en intro. L'important, ça reste aussi de gagner. Être bien entouré, ça aide forcément. Hein. Pat n'a pas eu les coéquipiers qu'on aurait aimé avoir. Mais ouais, chez Linux, il y a ce débat, quoi.
Du coup, toi, t'as Willis Reed en 9.
Ah, bah, mon Alex, tu sais qu'on va s'entendre là-dessus. C'est que j'ai. Qu'est-ce que j'ai fait? Il est là. Je commence à perdre la boule.
Moi, j'ai pas de Ewing en 9. Bon, après, je, vraiment, encore une fois, hein, je suis ouvert à la discussion autour du Willis Reed, Pat Ewing. J'ai l'impression que dès qu'on passe au step d'au-dessus, c'est-à-dire à la place 8,
oula.
Nos deux pivots d'Enix, en fait, ne sont vraiment pas dans la discussion top
ouais.
8
ouais.
en fait je pense hein, j'ai vraiment cette impression. Donc toi t'as Willis Reed en 9, moi j'ai Pat Ewing en 9.
Oui.
Bon voilà, c'est bien la preuve que ça
coude à coude, hein.
que ça se discute là quoi.
C'est ça. Dernier élément par rapport à ces deux places, plein de choses à pouvoir checker gratuitement sur les internets. Si vous allez sur YouTube, vous pouvez avoir des documentaires sur les Knicks des années 90 et Patrick Ewing. Il y a des super formats ESPN Sports Century. Willis Reed, comment ne pas parler de When the Garden Was Eden, le 30 for 30 ESPN.
Bien sûr, magnifique.
À foncer, à les voir. Donc voilà, deux légendes absolues. Où est-ce que vous classez ces intérieurs des Knicks? En tout cas, on a encore deux pivots des Knicks. Et juste qu'on soit totalement d'accord, il n'y a pas de joueur actuel des Knicks qui viendra discuter dans ce classement des grands pivots.
Il n'y en aura pas d'autres. En tout cas, pas pour l'instant.
Mitchell Robinson, extraordinaire. Peut-être qu'il ira chercher ça. Bah ça veut dire qu'on va tout de suite jumper en 8, en fait.
Ouais, on va jumper en 8.
Ouh là 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 là. Bon, on est d'accord sur les joueurs, mais après, je pense qu'on va être d'accord sur les joueurs, mais après, c'est l'ordre, quoi.
c'est l'ordre. Et puis moi j'ai tellement hâte de voir où est-ce que tu as classé le génie serbe et peut-être le volleyeur camerounais.
Alors, on verra.
David Robinson et l'amiral, évidemment, on est d'accord
c'est
avec
la même personne, hein.
C'est la même personne.
Au cas où, oui, voilà.
C'est pas l'amiral.
David Robinson, son surnom, c'est l'amiral.
Exactement. Ok, Ball Pepper, tu peux nous parler de cette papa de gauche?
Voilà, tout de suite, je le mets un step au-dessus des pivots de New York. Déjà, parce que d'un point de vue individuel, il a envoyé des saisons complètement folles dans les années 90. Les Spurs d'avant Duncan étaient déjà une équipe dangereuse, alors qu'ils ne gagnaient pas, qu'ils n'allaient pas au bout, parce que certainement que, et c'est aussi peut-être pour ça qu'il est entre guillemets que 8, David Robinson, parce que concrètement, d'un point de vue juste intrinsèque, le 2m16, 110 kilos, qui bouge, est-ce qu'il y a un pivot qui bouge aussi bien, peut-être Wilt, quoi, que David Robinson?
Ah, c'est un des meilleurs athlètes de tous les temps, ouais.
C'est-à-dire, voilà, c'est complètement dingue le côté athlétique et tout, le côté longueur, le côté défensif et offensif. David Robinson avait un bout de shoot, David Robinson avait un bout de handle, David Robinson défensivement c'est n'importe quoi. D'ailleurs il a été défenseur de l'année,
oui,
David Robinson, il a été MVP de régulière et défenseur de l'année, il a été plein de All-Star, il est évidemment Hall of Famer et compagnie, il fait évidemment partie de l'équipe de l'anniversaire des 75 ans
de
la NBA, il est dans la Dream Team 92.
On passe un cap là par rapport aux deux poteaux d'Enix là.
Voilà, après bon, Ewing il était dans la Dream Team 92 quand même.
Ouais, mais
oui.
Patrick Ewing, David Robinson.
Bah il est au-dessus en fait, David Robinson, parce que même dans une équipe où il n'était pas forcément le mieux entouré, les Spurs et tout, il a réussi à plus performer que ce qu'a pu faire Ewing avec ses Knicks, où il a réussi. Ewing, le seul truc c'est qu'il a réussi à aller jusqu'en finale sans la gagner.
Oui.
Ok. Là où Robinson n'a pas réussi ça sans Duncan.
C'est quoi, c'est finale de conf, Max, Robinson?
Ouais, je pense, ouais.
Il se fait fracasser par Olajuwon, ouais, en 95.
Ouais, je pense, ouais. Je pense qu'il n'a jamais pu dire, pas aller en finale tout seul, de toute façon.
Non.
Donc voilà.
À partir de 97.
Mais Robinson, individuellement, immense monstre, qui ensuite a réussi sa mue en leader vestiaire, accueillir quelqu'un dans ton équipe, un mec très fort et tout, et sans cet immense David Robinson, est-ce que Tim Duncan fait une carrière aussi forte? Moi, je pense pas, perso.
Ah, mais moi
je pense pas.
Ah, mais tout à fait. Je vais même aller encore plus loin, Alex. Pour les gens qui sont évidemment montés à bord du wagon Spurs, qui est devenu une franchise.
Tim Duncan, elle y est fort. Hein. Tim Duncan n'est pas dans le classement des pivots.
Non, je préfère
tout de suite.
Ouais, je sais que certains vont le faire, mais.
Non.
Changer de vidéo. Moi, je vais aller encore plus loin, Alex. Les gens apprécient beaucoup en France les Spurs pour une multitude de raisons. Les fondations d'ADN des Spurs viennent de David Robinson.
Oui, c'est vrai.
Avant que David Robinson vienne, c'est un repère de shooter dans tous les sens, et vas-y pour George Gervin, et vas-y pour Artis Gilmore, et on va essayer de voir ce que ça peut donner dans le Texas. Non, ce qui fait que cette franchise a été ensuite respectée avec des grandes valeurs.
Lui et Popovich, on va dire.
Tout à fait. Avant Duncan, et donc notamment l'intégration de Duncan, le mec qui fait le plus Bill Russell possible quand Duncan arrive, c'est-à-dire je te laisse la place, je vais devenir un pivot défensif qui va nous mener avec toi jusqu'au titre, c'est David Robinson. T'en as parlé, je monte le palmarès. T'es Hall of Fame, t'es 10 fois All-Star. T'es meilleur scoreur de la NBA sur une saison. Donc non seulement t'es un pur scoreur,
en fait, meilleur rebondeur.
C'est chaud, quoi.
Il a dû être meilleur contreur. Ouais, voilà, c'est ça, 91-92.
Meilleur rebondeur, comme tu
donc,
l'as dit.
Il y a vraiment tout. Il a tout fait. Il manque que les interceptions. Et franchement, il n'a pas dû passer loin. Il n'a pas dû passer si loin parfois.
Je vais montrer les stats parce qu'elles sont absolument hallucinantes. Regardez certaines saisons. Il y a des saisons à 30 points, 11 rebonds, 5 passes, 3 contre et 2 interceptions. Et tu as même ici 23 points, 5 contre, 2 interceptions, 12 rebonds. Et c'est pas en 1964. Hein.
Non, c'est il y a
30 ans.
Ouais, non. Il y avait du monde et tout. Non. David Robinson, ultra dominant.
Exceptionnel.
S'il avait été un leader ou un poil mieux entouré ou un leader plus méchant, tu vois, plus winner.
Oui.
Parce que je pense que c'est peut-être ça qui lui a manqué parfois, avec un entourage un tout petit peu meilleur plus tôt.
Oui.
Ça se trouve, il serait beaucoup plus haut dans ce classement tout de suite.
C'est ça. Et je termine avec un dernier élément. Il y a près de 21 000 points, 11 000 rebonds et 3 000 contre. Monsieur est arrivé à 24 ans en NBA.
Oui, en plus.
24 ans en NBA.
En plus, il arrive tard parce qu'il fait la Navy avant et tout. Non, bien sûr.
Il fait un cursus. Voilà, imaginez un joueur là comme Wemby qui arrive en fait. Il a quoi, 22 ans?
Il n'est pas encore arrivé en fait.
Il arrive dans 2 ans.
Ouais.
Enfin, des rookies de 24 ans, ça n'existe plus.
Non, ça n'existe plus.
Enfin, c'est trop difficile.
Il y a des 22-23 ans parfois, mais c'est vraiment les plus vieux. On dit que c'est des vieux rookies et tout.
C'est ça. Pour les plus jeunes, pendant qu'on efface la tablette, please, faites-vous un kiff, parce qu'avec Alex, on se le fait aussi parfois. YouTube, David Robinson, highlights, mec qui a mis 70 points dans un match NBA, qui a torturé des joueurs entiers.
Enfin, c'est kiffant.
À regarder visuellement
c'est...
Robinson,
moi, j'adore.
C'est parce qu'il y a, on va en parler après, Alex aussi. Il y a un espèce d'anti-classement là-dedans aussi. C'est les pivots les plus kiffants à regarder.
C'est vrai.
Parce qu'on va beaucoup parler palmarès, mais aussi en termes de plaisir visuel.
Après, on a des styles tellement variés là.
Ah là, il y a tout. Hein.
Parce que Robinson, clairement, lui, c'est le genre de gazelle du poste de pivot. Tain, lui, j'aimerais bien le voir dans la NBA actuelle.
Je
pense qu'il aurait un shoot à 3 points. Hein. Ou en tout cas, un truc correct. Hein. Je pense que lui, il en aurait un vraiment.
Je suis d'accord. On va passer en place numéro 7.
Je pense que Patchewing, il aurait pu avoir un shoot à 3 points aussi.
Oui, ouais, complètement. Je suis d'accord. Bah, on est dans des légendes absolues. Hein. Place numéro 7.
Place numéro 7, voilà, oui, effectivement. Enfin, je pense qu'on va avoir pas mal de correspondances.
Moses Malone.
Après là, on est dans l'ordre. En gros, là, ce qu'on est en train de faire, c'est que le truc, c'est qu'on est dans l'ordre de notre classement de l'époque du top 100. C'est logique quand on fait ce genre d'update.
Oui.
Tout peut pas changer, notamment entre Robinson et Malone. Bon, si tu te dis, ah, finalement, je vais mettre Robinson devant Moses, ça, par exemple, moi, c'est un jump que je peux pas faire.
Non, moi non plus, là.
Pour moi, il y a un. Dans mon top 100, moi, il y avait un écart de. Il y avait un écart de 12 places, moi, dans mon top 100. Et toi, il y avait un écart de 9 places, mais c'est parce que toi, sur Robinson, t'avais été un petit peu généreux, je pense.
Et sur Moses aussi, hein, on n'est pas. Moi, j'ai été
pas tout à fait, mais on
toi.
Est quasiment pareil, parce que moi, j'ai 14 et toi, t'as 12, tu ouais. vois. Bon, je te dis pas que ça change. Enfin, tu vois, c'est quand même.
Assez Robinson, je peux pas être objectif, évidemment.
Allez, Moses.
Parlons du quoi, du président du rebond.
Le president of the chairman of the rebound. Ouais. Bah, Moses, le truc. C'est que, bon, alors il a pas mal bougé d'équipe et tout, mais il y a combien ? Il y a 1400 matchs, Moses, hein ? Il y a 20 saisons ? 21 saisons ? 21 saisons ? 21 saisons, 1400 matchs. Vous voyez là ses bras, là, voilà. Là, voilà.
1455 matchs.
Voilà. moyenne en carrière sur 1450 matchs, hein, 20-12. Tu sais qu'il y a des saisons. Montre un peu les saisons de
oh
Moses,
là.
Là.
Alors, oui, tout à fait. Avant d'aller aux saisons,
c'est
juste
n'importe quoi.
Pour que les gens sachent, évidemment, NBA 75 trucs. Rookie, All-Rookie.
Pareil, il y a la défense et l'attaque, il y a le rebond.
Du rebond, MVP des finales. Trois fois MVP de saison régulière. Ça, c'est très très fort parce qu'il vient de se faire dépasser par un copain dont on va peut-être reparler après. Et sur les saisons, oh, il y a du gras partout. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? 25 points, 18 rebonds.
Il est MVP de saison régulière dans deux équipes différentes.
Oui.
D'abord les Rockets de Houston deux fois, puis les Sixers. Et il a fait quelque chose, Moses, qui le tiendra toujours pour moi devant des Robinson, Willis Reed, Patty Wing et tout. C'est qu'il a fait une saison, la saison 82-83. Il est MVP de régulière. Il tourne en combien il tourne quoi, il y a
83, il est en 25-15.
Il est en 25 points, 15 rebonds avec deux contres.
Oui.
Il est MVP de la saison régulière. Il est évidemment All-Star. Il est évidemment Defensive Team.
Defensive First Team.
Defensive First Team, All-NBA First Team et compagnie. Et ça va au bout et il est MVP des finales.
C'est la saison.
Ça, c'est le genre de saison.
À la Shai Gilgeous-Alexander, comme on dit.
À la Shea, à la Jordan, à la Hakim, on va peut-être parler de lui, à la LeBron en fait, à la voilà, il y a des mecs, hein, voilà. Mais en tout cas, c'est typiquement le genre de saison où, enfin non, LeBron il a pas fait defensive, enfin, non, il est pas defensive player of the year, je suis bête, il est all defensive team. Il faudra regarder LeBron, je suis pas sûr, tiens. Que dans les saisons où LeBron est MVP de régulière et MVP des finales, All Defensive First Team, ouais, où il a dû le faire. Bon, enfin, en gros, c'est ce genre de club et Moses en a une comme ça. Ça, pour moi, ça le distingue tout de suite des trois mecs que je viens de mettre en dessous.
C'est les très grandes saisons, des saisons qu'on n'oublie jamais.
C'est-à-dire que David Robinson, la saison où il est MVP, on tousse après en playoff.
Oui, tout à fait.
Il y a un petit sujet, il y a un petit problème.
De t'avoir parlé dans.
Voilà. Et bah, Patrick Ewing, la saison où il est MVP, bah, on la cherche encore. Et Willis Reed,
c'est très très fort,
mais
c'est pas ce niveau-là. On voit qu'on monte des steps
c'est
en fait.
C'est pas ce niveau de domination.
Tout à fait.
Pour
et,
moi.
Et il y a notamment, parce qu'on l'a dit et répété, on est sur un top 10 all-time. Regardez quand vous allez notamment sur le site de Basketball Reference, on va commencer à rentrer aussi dans des petits trucs qui deviennent. Oh, qu'est-ce qui est tout jaune là tout en bas? Le meilleur rebondeur offensif de tous les temps, sa moyenne.
En moyenne. Par match.
Par match,
1450
c'est 5 rebonds
matchs.
Offensifs.
Non, 1450 matchs. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des saisons où il descend, bah, les dernières saisons, on remet les stats.
Après, c'est là. Ouais, mais après,
non, mais pour
c'est...
que les gens captent, parce qu'il descend après vers la fin de saison,
non,
là,
là,
quand il part à Milwaukee
Antonio,
un peu et tout,
Philly, tout.
Il en prend plus que deux. Bon, c'est déjà correct en oui. fait, mais ça veut dire qu'il y a des saisons plus haut là, où genre, il en prend genre, mais combien
il en prend 7.
7.
Il prend 7 rebonds offensifs. Alors.
Enfin, quand même.
Ça joue avec la planche.
Oui, je les vois venir. C'est vrai qu'il stat, il auto-stat un peu.
Au-delà de dire que Moses Malone ne stat pas de, dans les années 70.
Il auto-stat un peu, mais enfin, quand même. C'est monstrueux.
Monstrueux.
Pour compléter évidemment les éléments sur Moses, comment ne pas parler hors des terrains de son impact, n'hésitez pas à aller voir le nombre de fois où Alex a parlé de l'impact sur Charles Barkley, un des vétérans qui a le mieux mentorisé beaucoup de jeunes. Et puis, on a parlé aussi de ses saisons assez formidables. En effet, beaucoup de franchises NBA dans lesquelles il a joué. Et puis, cet impact immédiat, c'est-à-dire que cette fameuse saison 82-83, l'année précédente, il est à Houston, c'est sa première saison à Philly. Le mec débarque à Philadelphie et tout de suite, il fait cette saison extraordinaire.
Il change l'équipe. En fait,
quand on voit ce que, par exemple, Kawhi a fait en 2019, où tu débarques à Toronto et tu fais cette saison-là. Ouais. Imaginez que Kawhi, en débarquant à Toronto, il avait été MVP de régulière, deux finales, titre, célébré par toute la NBA.
Et la saison d'après, il accueille un gros rookie, quoi, cinquième de draft, Barkley ou un truc comme
ouais, c'est ça.
Il accueille un gros rookie cinquième de draft et il l'aide, et Barkley, c'est Barkley qui le dit, hein, c'est pas moi, il l'aide à devenir le bonhomme et le joueur qu'il a été.
C'est ça.
C'est pas rien.
Non, tout à fait.
C'est pas rien.
Qui a accepté en plus d'être remplaçant dans la
c'est
fin de la carrière.
C'est pas rien, ah, et c'est que septième.
Mais c'est ça le problème.
C'est ça le problème des pivots.
C'est ça le problème des pivots, c'est qu'en fait, on va arriver dans un classement où là, j'avoue, c'est très très chaud. Attention.
Oui.
Là, on rentre dans le fun. Moi, j'avoue, j'avais à peu près mon 19-8-7. Et après, j'ai commencé à me dire, comment on fait ?
Moi, j'en ai encore un. Moi, en fait, j'ai eu plusieurs discussions. Moi, j'ai eu une grosse discussion, genre... non, mais je vais pas le dire, comme ça, voilà. Je vais pas spoiler les gens. Je vais mettre mon 6. Et... Et voilà, et je mets mon 6.
J'ai très très hâte. Et j'ai Jokic, et toi t'as Hakeem Olajuwon. Donc on l'acte tout de suite, tu as Nikola Jokic devant Hakeem.
Oui.
Ok.
Ouais. Mais je t'avoue que... En fait, là,
moi je peux pas aujourd'hui.
Ah la vache. Non, mais bien sûr, mais attends.
C'est la place là. C'est 6, 5, peut-être certains vont me dire 4, 3, j'ai du mal, mais là, on est là.
Donc, mais tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je m'attendais pas forcément à ce que tu fasses comme ça. Après, c'est vrai que là, au moins, t'es dans l'angle, je pense que du coup, je connais ton top 5. Puisque ton top 5, du coup, devrait être celui de tes 5 pivots du top 100, plus ou moins.
Bah,
à moins que t'aies changé d'avis. À moins que t'aies changé d'avis. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, est-ce qu'on est d'accord pour dire que, donc, toi, à l'époque du top 100, on avait tous les deux Hakeem en 11e.
On a dit qu'il fermait la porte du top 10 all-time.
Voilà. Ensuite, on a tous les deux des Wilt et des Shaq très proches. Là, bon, on n'était pas d'accord, mais en gros, c'est du 8-9-10 par là, Wilt, Shaq et tout. Et puis après, on a deux autres pivots quand même devant la mêlée.
Après, oui.
Devant la mêlée. Ouais. Ok. Et donc, est-ce que tu es d'accord pour dire que Jokic, il est dans cette discussion Wilt, Hakeem, pourquoi pas rentrer Shaq dedans ou pas, ça dépend des classements. Est-ce que, parce qu'en fait, moi, le premier truc que j'ai fait pour faire ce top 10 all-time, c'est le premier truc que j'ai fait vu que j'avais déjà un classement de pivot all-time. Mm-hmm. J'ai fait le dossier Jokic sur le papier. Je me suis dit, ok, c'est quoi le dossier
pareil,
de Nico Jokic?
Absolument.
C'est quoi son dossier? On peut le faire maintenant.
Ah bah,
après,
maintenant,
je dirais où je le mets. Parce que le dossier d'Hakeem, on l'a déjà documenté. Je vais en reparler d'Hakeem. Attention, c'est pas
moi,
le sujet.
Je vais en reparler pendant
des heures. Juste, je crois qu'on est d'accord. Le truc intéressant de ce top 10, c'est où est-ce qu'on
c'est
a envie de
Nico.
Mettre Jokic.
C'est ça. Et moi, je t'avoue que je n'ai pas encore pu, on va parler du dossier, je n'ai pas encore pu le mettre dans les 5 meilleurs pivots de tous les temps pour différentes raisons.
Bah bien sûr.
Ou en tout cas, je ne peux pas encore, mais il est en cours de carrière,
je ne
peux pas encore le mettre devant Hakeem.
Je l'entends.
Bah faisons un dossier Jokic.
J'avoue que le dossier Jokic, donc j'ai mis sur le papier comme on fait là, tu vois, donc le mec, il est pas encore Hall of Famer, mais pardon, lol. Voilà, il est dans sa 11e saison au moment où nous on parle. Grosso merdo, le Jokic, quand il aura fini cette 11e saison, il aura 800 et quelques matchs, donc en gros joueur assez régulier, il joue beaucoup de matchs, joue beaucoup de matchs toutes les saisons et tout. Comme il est arrivé de loin à la draft. 41e, voilà, vous connaissez tous l'histoire là, qu'on ressort tous les ans, il a été drafté pendant une pile, tout ça, machin, gnagnagna. Les premières saisons sont un peu plus timides.
Oui, mais bon.
En revanche, dans le dossier Jokic, on est sur 5, bientôt 6 saisons de suite où il va être. Bon, 5 saisons de suite, il est top 2 MVP, 3 fois il a le trophée, les 2 fois où il l'a pas, s'il l'avait eu, il y avait zéro scandale.
Absolument.
Il y avait absolument zéro scandale. On pourrait parler d'un mec 5 fois MVP.
Tout à fait.
De suite, truc de n'importe quoi. On sait très bien que les votants font pas ça. Ils l'ont même pas fait à Michael Jordan, les types. Alors que franchement, enfin bref.
Jokic pourrait aujourd'hui là dire
moi, sur les 5-6 dernières années,
je suis le meilleur joueur de
la NBA. Je suis le meilleur joueur de la planète basket.
Ouais, ouais.
Et ça, c'est un argument
c'est
qui
pas
est énorme
le dire,
dans son
c'est
dossier.
Que c'est le cas.
Tu peux toujours. Bon, tu peux
c'est
toujours.
C'est qui? C'est pas lui?
Il y a aujourd'hui. Quand on est en septembre 2022, tu me dis que Giannis est un meilleur basketteur que Jokic.
Voilà, okay.
Je l'entends.
Allez, ok.
Je l'entends.
Oui. Sortie de titre de Giannis, je suis d'accord. On peut discuter.
Voilà,
mais
l'année
bon.
Dernière, il y a peut-être des gens qui vont dire que Shea discutait était un poil meilleur qu'eux, mais c'est très très
on peut
discutable.
Dire, bien sûr, mais en fait, en gros, il est là. En gros, donc il a déjà 3 MVP. C'est-à-dire que déjà, en gros, ce qui est fou avec Jokic, c'est que par exemple, pour toi comme pour moi, du coup, il a déjà effacé Moses, le type.
Oui.
Bah déjà ça veut dire qu'en ouais. gros si on doit faire un top 100 all time là on doit updater, ça veut dire que toi et moi on est d'accord pour dire que la discussion
bah, 15, hein.
la discussion Jokic commence dans le top 15.
Ah bah il est dans les 15. C'est de ça dont on parle. On est en train de voir un des 15 meilleurs joueurs tous les temps,
bien
je suis
sûr,
d'accord.
Bien sûr.
Mais peut-être plus 12 que 9 chez
bah,
moi.
Bah putain, chez moi, c'est pas
ça. Eh ben, ouais, je comprends. Je sais pas si c'est un des 10 meilleurs joueurs
donc,
tous les
non
temps.
Non seulement, bon, 3 fois MVP. Régulière, c'est un monstre. Il va probablement enchaîner là, sa deuxième saison de suite en triple-double de moyenne.
Ah bah, je montre les stats, ça va tout
Statistiquement, en termes de statistiques, de production statistique offensive, honnêtement, il est, à mon avis, en sortie de carrière, il sera intouchable. À mon avis. En termes de. Genre, c'est quoi ces conneries? Genre, on a un pivot qui fait 10 passes d'ess par match tout
qui
en
a
étant.
40% à 3
tout
points.
Tout en étant à quasiment la trentaine de points. Il est à combien? 29, 28?
Il est à quasi 30 points de moyenne.
Ouais. Voilà. Attends, non, attends. Il est à 30 points de moyenne en 50, 40, 85. Ah ouais. C'est n'importe quoi.
Bah, de toute façon, on a fait un top 10 une Popular Take récemment. Et toi, tu le disais, c'était, je crois, en 1 ou dans le podium. Pour toi, tu vois, on voit le meilleur pivot offensif de tous les temps.
Oui. Oui.
Et l'argument s'entend grave.
Pour
parce
moi,
que
oui.
numériquement, il n'y a même pas à hésiter sur le fait de l'intégrer dans la conversation.
C'est-à-dire
c'est
que...
beaucoup trop fort sur tous les aspects offensifs et toutes les métriques, même là, on parle de pur. Si on rentre après dans les avancées, c'est n'importe quoi.
C'est-à-dire que près du cercle, ah oui, c'est clair que Shaq ou Wilt, ça c'est sûr qu'on va dire, ah, c'était plus costaud, plus grand, plus intouchable, plus indéfendable. Plus indéfendable, ça se discute, mais en gros, plus de. Allez, Karim avec son skyhook aussi. Jokic n'a pas ça, encore que les petits hooks de Jokic. Amusez-vous pour l'empêcher de scorer. C'est compliqué.
Ça a fait des mouvements.
Sauf qu'à chaque fois qu'on va dire ça, ouais. en fait, c'est des discussions avec Jokic. Alors que Jokic, il y a des éléments de jeu offensif où il n'y a pas de discussion. À la passe, il n'y a pas de discussion.
Oui.
Il n'y en a pas. Au shoot, d'une manière générale, il n'y a pas de discussion puisque oui. Jokic, il va plutôt être dans une discussion avec des Dirk Nowitzki ou Kevin Durant. Donc c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc ça, à ce niveau-là, je pense que vraiment, moi, ça a joué beaucoup. Et donc pour moi, il est déjà dans cette bataille de top 5 avec Hakim, Wilt et Shaq. Oui, c'est ça. C'est ces joueurs-là. Il est déjà là. Il sera dans l'équipe des 100 ans de la NBA. Là, il est pas dans le top 75 évidemment, hein, pour des raisons évidentes. Il était pas là, quoi, en gros. Mais il sera dans l'équipe du top 100 de la NBA. Il sera Hall of Famer. Je veux dire, là, je sais qu'on est sur du. Si sa carrière s'arrête maintenant, il est Hall of Famer de fou.
Oui, évidemment.
Il possède dans son palmarès un run de MVP de régulière, puis run de playoff qui l'emmène au titre avec MVP des finales, une dinguerie monumentale.
Un truc que certains rêveraient de faire, ouais.
C'est une dinguerie monumentale.
Que les mecs qui sont dans le rétro rêveraient de faire. C'est-à-dire que même la saison extraordinaire de Moses, dont on vient de parler, hein, tu la compares avec la saison 2023 globale de Jokic, Jokic.
Je vais même te dire, avec le titre au bout, même Wilt, il en rêve.
Oui, absolument. Absolument. Ah, mais on en est là.
Après, Hakim et Shaq ont des runs de MVP qui sont monstrueux. Mais en fait, Jokic, il les regarde droit dans les yeux. Hein. Mm-hmm. Droit dans les yeux.
Ouais.
Donc en fait, entre les triple-doubles, le fait que c'est un passeur qu'on compare avec des meneurs, le fait qu'au scoring, en fait, il regarde tout le monde droit dans les yeux, le fait qu'effectivement, il est moins fort en défense que Hakim, hein, clairement. De toute façon, plus fort en défense que Hakim.
Je vais en parler dans quelques
secondes. Plus fort en défense que Hakim.
Je vais en parler dans quelques secondes.
C'est complicado, on est tous d'accord. Par contre, en attaque, pour moi, je prends Jokic tous les jours.
Oui, mais l'écart est pas aussi.
Non, peut-être pas aussi, mais il est quand même sérieux. Et ensuite, il y a quelque chose qu'on sous-estime grandement, à mon avis, dans la carrière de Jokic. C'est normal parce qu'elle est en cours. Et donc, c'est pour ça aussi que, genre, je sais qu'il y a des gens qui vont vouloir le mettre 1 parce que efficacité, machin, nanana.
Ouais, mais non,
et pourquoi pas, si vous voulez, mais moi, ça va pas être possible parce que autant on. on sous-estime, je veux parler de la partie leadership de Jokic. Je trouve qu'on la sous-estime, qu'on n'en parle pas assez, parce que on en fait un peu trop des caisses avec, et c'est rigolo, hein, le mec préfère le cheval au basket, et c'est son droit. Et dès qu'il a une minute de livre, il vient d'être champion, bim, l'autre il est à son bord, en train de boire des binous avec ses potes et de parier sur des chevaux. Ouais. Et pourquoi pas, tu sais quoi, il fait ce qu'il veut avec son argent déjà. Deuxièmement, si c'est ça son kiff, moi ça me va bien. Et donc du coup, ça a tendance un peu à rendre le côté, genre tu sais, bientôt on va nous faire croire... équipe fait la fête au lieu de s'entraîner, j'exagère un peu, mais non, tu vois ce que je veux dire.
Non, c'est un suprême leader.
C'est un putain de leader. La régularité qu'il a, c'est pas donné à tout le monde, mine de rien. Le côté, les quelques blessures qu'il a eues, quand il revient, il est là tout de suite au niveau, dans son jeu et tout. Le côté, la confiance qu'il donne à ses coéquipiers, putain, il rend les autres meilleurs, lui. Hein. Ouais. Alors lui, il rend les autres meilleurs des deux côtés du terrain, de partout. Il rend même les coachs meilleurs, je pense. Il te facilite tellement le travail. Donc,
c'est un Duncan
ouais,
like. Hein.
Moi, c'est Hakim mon 6 et donc je vous dis pas où, mais Jokic sera dans mes 5.
J'entends.
Vas-y sur
et du coup
sur du coup tu vas peut-être plus nous parler, tu nous compares donc toi t'as mis Jokic en 6. Donc t'as Hakim devant.
Alors, je te donne mon argument.
A priori.
Je te donne mon argument.
Tu pas Hakim dans tes 5, mais du coup il y aura un sujet.
Peut-être qu'il sera 11e.
Il y aura un sujet.
Alors, tout ce que tu as dit, je suis évidemment d'accord parce que c'est factuel, objectif, et même les éléments supplémentaires type leadership, je suis très content que tu les mettes en avant parce qu'il me fait beaucoup penser à du Tim Duncan, notamment dans la façon régulière d'être présent pour sa franchise, d'être toujours là, de s'améliorer, parce que ça aussi on n'en parle pas beaucoup, mais Jokic chaque année revient encore plus fort que l'année précédente.
De fou, quand
ça
même.
C'est extraordinaire. Ceci étant dit, quand j'ai fait ma tambouille et que
il
je me suis dit,
il va aller tabasser Westbrook au triple double, c'est quoi ces conneries?
Quand j'ai commencé à faire mon classement, oui. Et je me suis dit bon, où est-ce qu'on place le pépère?
Oui, bah oui. Toi aussi, c'était ton dilemme principal.
C'est le dilemme principal. Ouais. La première chose, c'est que je suis en cours de carrière, donc j'attends de voir d'autres
10, 12,
éléments.
11e saison, t'as quand même un peu de cam.
J'ai un peu de cam, ce qui fait que d'ailleurs il passe devant Moses et compagnie, etc. Lorsque j'ai commencé à comparer, je me suis dit premièrement par élimination, Wilt, on n'y est pas. Shaq, on n'y est pas.
Wilt, on n'y est pas ?
Non, Wilt, on n'y est pas. Tu vas me dire après qui tu as en 5. Mais pour moi, pour le moment, on attend de voir la fin de la carrière. Mm-hmm. Mais si tu veux, tu vas nous mettre ensuite Wilt en 5 et on verra. Mais pour moi, pour le moment, on n'y est pas. Pour différents arguments dont on va parler. La discussion, elle a été avec Hakim. Mm-hmm. Vraiment, ça a été Jokic-Hakim. Je n'arrive pas encore à mettre Jokic devant les monstres sacrés qui
Toi,
sont devant.
C'était une discussion à deux, c'est ça que tu
es en
train de dire.
C'est une discussion à deux, exactement. C'était entre Hakim et Jokic. Ça ne veut pas dire que Jokic n'est pas dans la conversation avec les Shaq et tout, puisque, preuve étant, on a dit qu'ils sont dans le top 15, donc c'est un couloir qui est très très serré quand même.
Mais oui,
les garçons commencent à être dans le même range.
C'est pour ça que je te demande, parce que c'était une discussion à deux, parce que j'avoue que moi, le fait de faire le dossier Jokic, j'avoue que je me suis dit... Est-ce que j'avais vraiment si bien classé que ça Hakim à l'époque?
Et donc,
est-ce que vraiment je dois mettre Hakim derrière Wilt? J'avoue que le dossier Jokic en rentrant dans le truc m'a fait hésiter sur mes classements de l'époque.
Bien sûr, moi j'ai un amour pour Hakim Olajuwon qui, les gens le savent depuis très longtemps si vous suivez la chaîne, est immense. Je trouve que d'ailleurs, tu parlais un peu de choses dont on ne prend pas assez en compte ou en considération, mais je trouve que plus le temps avance... Plus Hakim il est sous-coté.
C'est possible.
Plus les gens ils en ont rien à foutre.
Oui.
Plus ils se disent oui mais super, il n'y avait pas Jordan. Non, arrêtez. Aujourd'hui.
On aurait bien voulu voir quand
aujourd'hui,
même.
Aujourd'hui Alex,
oui.
Tu viens de le dire tout à l'heure, si on fait un classement des meilleurs joueurs two-way de l'histoire, Hakim il discute tout en haut.
Le Kikim il discute, ouais.
Hakim, aujourd'hui,
j'avoue.
On va voir ce qui se passe avec Wemby, on va voir ce qui se passe avec Rudy, on va voir ce qui va se passer avec plein de garçons pendant des années à venir. Le meilleur contreur de l'histoire de la NBA, c'est Hakim Olajuwon.
Alors, le plus
le défenseur pivot, oui, le meilleur contreur. Si tu veux, tu peux discuter avec Bill Russell, mais en tout cas,
le problème, c'est qu'on a deux mecs qui n'avaient pas les stats. Quoi,
Hakim Olajuwon est le pivot défensif le plus complet de l'ère moderne.
Oui, ça oui.
Sans discussion possible.
Bah, jusqu'à temps que Wemby fasse vraiment sa carrière.
Aujourd'hui, sans discussion possible, Hakim Olajuwon est le défenseur le plus complet.
Ce qui rivalise, c'est quoi? C'est Robinson?
C'est peut-être
Bill Russell,
mais tu vois qu'on commence à être dans des discussions un peu difficiles. Donc, sur l'aspect purement two-way auquel j'accorde évidemment certaines formes d'importance, je n'arrive pas pour le moment à mettre Jokic devant Hakim, parce que Hakim est le meilleur contreur, le plus prolifique de tous les temps. Et plus qu'une histoire de chiffres, c'est aussi un mec qui n'a pas non plus été il n'a pas été sur les ailes de Clyde Drexler pour être champion NBA. C'est un mec
c'est un leader
qui est leader énorme d'une franchise. Et tu disais, quand on pense aux Knicks, on pense à Pat Ewing. Quand tu penses aux Rockets, tu penses à Jordan?
Non,
tu penses à Hakim fucking Olajuwon, avec deux titres de champion,
deux fois MVP des finales.
Deux fois MVP des finales dans deux complexités très différentes. Une en étant clairement le meilleur joueur de la planète sur une des saisons dont on a parlé.
93-94.
La 93-94 que je vais montrer qui est, excusez-moi, puisqu'on parle de dinguerie statistique, Hakeem Olajuwon, je vous montre ça tout de suite. 93-94, 27 points, 12 rebonds, 4 contre, 4 passes.
Ouais, puis
tranquillement.
Et il domine les playoffs après derrière.
Voilà, on est allé sur des saisons à 25 points, 14 rebonds, 5 contre. Voilà,
ah non, mais
au calme. Et juste pour finir sur Hakeem, oui, c'est que Jokic est sur un run de 5-6 ans individuellement qui est extraordinaire. Ce que je souhaite voir là, et qui fait que c'est difficile pour moi de le faire monter plus haut, c'est que je souhaite plus que jamais que Jokic aille nous chercher une nouvelle bague. On est,
ou au moins qu'il continue en tout cas à dominer, quoi.
Et qu'il continue à
la bague,
dominer,
on sait
et continue. C'est difficile.
On sait que c'est de l'alignement,
c'est
de planète, tout ça.
Mais du coup, je le range avec Moses.
Tu regardes Wilt, il a combien? Il a qu'une bague, Wilt, hein?
Wilt en a deux.
Ah, il en a deux. Il en a une avec les Sixers. Il en a deux, tout à fait.
Et on rentre là dans un range du top 5 où en fait, les mecs, si t'as pas deux bagues, minimum ou trois, t'as pas ta place. Et pourtant, il est dans le débat, ce qui montre le génie absolu d'un mec comme Jokic. C'est-à-dire que le gars, il discute avec ses monstres.
C'est là où je diffère un tout petit peu.
Mais j'entends, mais juste pour terminer sur Olajuwon, c'est que c'est un mec, du coup, en carrière, qui a 3800 contre. On va pas le chercher. On va voir pour Victor, mais tu sais que c'est sacrément chaud.
Va falloir envoyer.
C'est le numéro 1 all-time des contreurs dans l'histoire de la NBA, ce qui est quand même assez important.
Victor pourrait, mais va falloir une longévité de porc.
Énormissime.
Après, il aurait les moyennes statistiques, tu vois, parce qu'on peut imaginer un Victor, même vieillissant,
oui,
avec sa taille et son savoir-faire du placement,
oui,
c'est un peu à la Duncan, qui continue à beaucoup contrer.
Tout à fait.
Mais par contre, il faudra tenir longtemps.
Pendant
longtemps.
10 ans,
même à
3, pendant pas. Quasi 10 ans, tu avais Hakeem Olajuwon qui était dans des classements très très haut top 5 voire podium de défenseur de l'année et MVP.
Combien de matchs il a en carrière, le 8 là?
Juste pour revenir, c'est très difficile de trouver des joueurs qui sont aussi forts des deux côtés du terrain. En fait, en gros quoi, t'es un des meilleurs joueurs two-way, t'es un des meilleurs gagneurs de l'ère des années 90, puisque dès qu'on le met à table avec Patrick Ewing, Alonso, etc., c'est Hakeem le meilleur. Même Shaq, quand il en parle, il dit franchement, Hakeem, il m'a mis ce qu'il m'a mis, parce que une année, il a été titré en tant que patron clair. C'est des saisons qu'on ne voit que peut-être une ou deux fois dans la vie.
C'est une galère.
C'est
ce
MVP de régulière, MVP des finales. T'as été défenseur l'année précédemment. Et l'année suivante, combien de fois, Alex, on fait des tops où on dit « Ah, les Rockets de 95, c'est la seule équipe de l'histoire à avoir été championne, on était en top 6. »
Sixième et tout. Oui, bien sûr, mais complètement d'accord.
Le dossier d'Hakeem, juste ce que je voulais dire, c'est que…
Sporting Cast, pas si…
Pas si incroyable.
Bon, mais pas… Il y avait de la profondeur, mais pas… Il y a Clyde Drexler qui est encore fort, mais…
Et en fait, je trouve, pour finir sur Hakeem, et après tu vas me dire, c'est que je trouve que Hakeem, plus le temps avance, plus on l'oublie. Et s'il y a bien un truc sur lequel Jokic et Hakeem sont ensemble, et je pense qu'ils sont tous les deux, et je veux bien ton avis et l'avis des gens, peut-être tout en haut d'un autre classement all-time chez les pivots, c'est que je pense que Hakeem, il discutait avec Jokic comme les plus beaux joueurs à avoir vu jouer au poste de pivot.
Ah oui.
Jokic, aujourd'hui, c'était peut-être un des… Si les gens me disent que Jokic est le plus beau pivot à avoir joué au basketball, je l'entends.
Après, ça, c'est vraiment très subjectif.
Oui, oui, bien sûr, mais…
Moi, j'ai trop kiffé chaque…
Ah mais bien sûr.
Il est sur la photo là. Moi, Shaq du Magic. Genre moi, je préfère regarder le Shaq du Magic que Hakeem Olajuwon.
Absolument.
Mais là, c'est vraiment très. Là, il y a pas de critères vraiment. En fait, c'est
très
juste,
subjectif,
voilà.
Tout à fait. Mais moi, je t'avoue aussi que il y a une part aussi de beauté du jeu. C'est-à-dire que moi, tu me dis aujourd'hui, j'adore les palmarès, les capacités de Moses Malone et Hakeem Olajuwon. Je sais très bien qu'est-ce que je préfère regarder.
Ah oui, non, mais
Hakeem Olajuwon extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a formé aussi des arrières par la suite à avoir des moves au poste. Le Dream Shake, la façon dont on a vu certains des LeBron, des Kobe aller demander à Hakeem, est-ce que je peux m'entraîner avec toi pour améliorer mon jeu, c'est un truc complètement fou.
Mais ça, c'est au-delà de la beauté, c'est la technique,
c'est
du footwork,
c'est
non,
ça.
Tout à fait.
Donc un peu juste de respect sur Hakeem. Je dis pas que évidemment il y a de l'irrespect et que des gens vont le mettre au dixième.
Mais
je voulais profiter de ce thème pour dire.
Ouais,
oh là 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 là.
Je suis d'accord. Mais tu vois, moi je je répète ce que j'ai dit parce que c'est important. J'avoue que devoir classer Jokic m'a obligé à me replonger dans les dossiers des pivots que je considère être à la lutte où Jokic peut, est-ce qu'il le mange, Hakeem, est-ce qu'il le mange pas. Du coup, ça m'a obligé à me replonger aussi dans les dossiers de pivots que j'imagine on va avoir dans pas longtemps là, du Wilt ou des gars comme ça.
Ouais.
Où en fait, par exemple, tout ce que tu viens de dire sur Hakeem, on va voir où tu mets Hakeem parce que du coup, t'as toujours pas sorti Hakeem.
Ah, spoiler, il est en 5.
Ok, voilà. Spoiler, il est en 5.
En gros, c'était Jokic Hakim juste. Parce que quand on...
Pour toi, du coup, tout ce que... En fait, moi, ouais, le truc, c'est que ça m'a obligé à refaire le dossier Hakim, ça m'a obligé à refaire un peu le dossier de Wilt.
Et le dossier Hakim, il est complètement dingue, on l'oublie trop.
Ben oui, mais du coup, en fait, j'étais là, genre... À l'époque, pourquoi j'ai pas mis Hakim dans mes 10 mois? Vraiment, je me suis posé la question. Bah,
parce que les mecs sont devant.
Bah,
c'est trop chaud. C'est trop chaud, les mecs.
Entre Hakim et Wilt, du coup, c'est des dossiers très, très différents. Très différents entre Hakim et Wilt. Sans parler de Jokic, hein. Juste entre Hakim et Wilt.
Oui.
Pas la même époque. Wilt, il a dominé statistiquement l'autre. On a fait une fois une vidéo. Ça s'appelle Les records intouchables, je crois.
Oui.
Bon, bah, c'est la vidéo de Wilt, hein.
Oui, tout à fait.
Voilà, hein, on parle de Wilt.
Et vite fait, Stockton.
Vite fait, il y a Westbrook et Stockton. Mais genre, c'est la vidéo de Wilt.
Oui.
Wilt, domination fabuleuse. Leadership.
Nul.
Questionnable.
Non, non, nul.
Voilà. En revanche, il y a un titre avec Philadelphie, les Sixers, qui est assez incroyable. Ensuite, il y en a un autre avec les Lakers qui est, entre guillemets, moins incroyable. Enfin, il y a Jerry West. Enfin, il y a, je dis pas que Will joue pas bien, mais il est vieillissant. Il est... Voilà. Il y a 4 fois MVP, je crois, Wilt Chamberlain.
Oui.
Je suis en train de faire le dossier de Wilt. Je dis pas où je le classe, on verra. Mais c'est juste pour vous faire comprendre la difficulté du truc. C'est, par exemple,
c'est
entre guillemets, Hakeem Olajuwon. Eh, genre, si on veut, tu vois, genre... Malgré sa carrière de fou furieux, là, il est qu'une fois MVP de régulière. Et il aurait pu en avoir 2, peut-être, on peut chercher, mais bon.
C'est ce qui fait qu'on l'a sorti du top 10.
Il y a du Robinson, il y a du. Bon, Patty Wing l'a jamais eu, mais en gros, il y a une période où la raquette est surbondée, et en plus, il y a Michael Jordan dans les extérieurs.
Voilà.
Donc ça prend de la place. Plus, en 93, il y a Barclay. Il y a aussi Karl Malone sur la deuxième partie de Hakim. Enfin, je veux dire, en gros.
Quand Jordan n'est pas là, juste, c'est pour Olajuwon. Hein.
Les titres.
Et les récompenses individuelles, MVP, enfin je veux dire, il est trop fort, et quand il prend pas le MVP, il l'atomise David Robinson.
Voilà, c'est ça. Mais
le meilleur joueur de la planète à ce moment-là, c'est Hakim.
Le run 93-94, 94-95, même si en 94-95, la régulière est dominée par les Spurs de David Robinson et tout, derrière, il fait un tel run de playoff que c'est à lui pendant 2 ans.
Hakim, le run de Hakim en 95, il le ferait aujourd'hui avec Twitter, ce qu'il a fait à David Robinson.
Bien sûr. Bien sûr.
On en ferait 15 apéros.
Bien sûr, et puis il y aurait aussi des mecs qui diraient ah ben il s'en sort bien Michael Jordan parce que s'il avait dû jouer les Rockets d'Hakim.
Mais c'est toujours un débat. Hein.
Mais c'est toujours un débat. Enfin, moi je pense que c'est en même temps c'est un débat et en même temps bah oui désolé. Enfin genre quoi on juge un type qui était pas là. Ça n'a...
Ah, bien sûr.
Bah, voilà ça n'a pas de sens.
D'ailleurs Hakim on oublie 3e saison NBA il est en finale contre Boston.
Bien sûr tout jeune là avec Ralph Sampson.
Énorme.
Bien sûr. Non mais complètement. Donc c'est ce que je veux te dire c'est qu'en gros moi en faisant ça pour classer Jokic. Je me suis dit, ok, vas-y, refais le dossier d'Hakim. Je suis, putain, je suis comme toi, hein. Je fais le dossier d'Hakim. Puis après, attends, bouge pas. Le dossier de Wilt, le dossier de Wilt, tu sais que le truc, le type, c'est que la colonne record NBA, elle est à lui, quoi. Quasiment, à part, évidemment, il y a un peu de LeBron, un peu de Stockton. Il y a LeBron beaucoup maintenant, mais il y a Stockton, des mecs sur des trucs un peu différents, où lui, en tant que pivot, on lui comptait pas les contres. Donc voilà, mais si on lui comptait les contres, la légende raconte que...
Il en aurait 200 millions.
Hakeem Olajuwon serait un simple figurant.
Ouais. Bien sûr.
Donc voilà. Donc bon, c'est un dossier très compliqué à placer. Moi, franchement...
Quand tu fais tous les dossiers, c'est hardcore. Il y a
faire ces dossiers-là, j'étais là en train de me dire, putain... Comment je fais? Qu'est-ce qui est le plus impressionnant? J'ai un mec qui est en cours. Genre, le Jokic, il est en cours. Putain, il a déjà sur un paquet de comment dire, d'angles, il a déjà Hakim dans le rétro, alors qu'il est en cours. Il a déjà 3 MVP. Il a déjà une domination sur 5 ans. Hakim n'a pas cette domination sur 5 ans vraiment de la ligue. Mm-hmm. Après, il y avait Jordan, il y avait Barclay, mais bon, en fait, on va, Jokic, il y a Shai Gilgeous-Alexander, il y a Joel Embiid, il y a Giannis Antetokounmpo, il y a Luka Doncic, il y a encore du, je sais pas moi, du LeBron ou du Tatum, enfin, les Celtics et tout. Donc, en fait, il y a du monde aussi. Pourtant, c'est lui. Donc, en fait, il a déjà des choses qui, moi, m'ont dit, ok, bah, tu sais quoi, je bouge pas Hakim. En gros, je le bouge pas et je vais glisser Jokic.
Eh ben, moi, je comprends totalement et j'ai très hâte d'avoir l'avis des gens. Dernier élément là-dessus, tu sais qu'un jour, on va faire une update du top 100 et il y a aussi un sniper du côté de Golden State sur un autre poste, hein, qui va discuter gentiment avec la porte des 10, etc. On entre dans un club, je le répète, où il y a plusieurs bagues. Aller monter tout en haut de la montagne une fois, c'est extraordinaire, surtout de la manière dont Jokic l'a fait. Sa saison 2023, elle est exceptionnelle. Là où tu deviens une légende absolue et que tu discutes à table avec les 10 là, c'est quand tu t'es vraiment installé deux fois sur la montagne. Et ça, il ne l'a pas fait encore.
Non, il l'a pas
et
fait.
Je souhaite que Yokich le fasse pour dire merci Hakim, bravo pour tout l'héritage que tu nous as apporté.
Si Yokich fait une deuxième bague, moi, c'est pas merci, juste Hakim.
Non, on est d'accord. Mais de toute façon, Alex, on l'a dit, c'est un embouteillage. Attention. C'est-à-dire que sur l'espace de 7 à 8 places, on a 5 pivots.
Et puis
on est d'accord là-dessus.
Ah ouais,
on a 5 pivots là entre les places 5 et 15.
On a dit
c'est
Hakim,
trop compliqué.
C'était notre 5ème pivot en 11ème place. Donc sur 11 gars, t'as 5 pivots dans notre top 100 all time.
Tu vois, c'est-à-dire que par exemple Curry, par exemple, pour juste faire une aparté, on est en train de discuter de voir dans les 10 comment il peut rentrer. Frérot, il a combien de bagues, Steph?
4.
En étant, il a 4 titres. Après, en dit... étant le meilleur shooter de tous les temps et un des joueurs les plus impactants de l'histoire de ce basketball. J'attends juste que Nico, extraordinaire sur ces 5 dernières années, monte une deuxième fois tout en haut de la montagne.
Là où... J'entends, mais là où vraiment je vais avoir des discussions sur les... Il faut regarder aussi les dossiers.
Ah oui.
Il faut regarder...
Bah, ça fait partie du dossier. Hein.
Oui, non, mais par exemple, moi, un petit point qui... Genre, autant les finales d'Hakim, tu vois, en 94... Je suis déçu par les Knicks, mais Hakim est trop dominant, il domine Pat Ewing. Pat Ewing, il avait une fenêtre de tir, il fait pas forcément. On critique beaucoup les finales de Patrick Ewing. Mais pardon, il y a
le meilleur défenseur
en face. Tu vois, genre, c'est pas facile, quoi. Mais c'est vrai que ces Knicks-là sont arrivés. Enfin, en gros, je sais pas, il y avait un côté. Ils sont plafonnés en finale, les Knicks. Tu vois.
Mais j'ai plus rien à ce moment-là, il faut les faire avec tous les.
Non, mais
par contre, ce
que je veux dire. Non, mais c'est pas pour critiquer Hakim du tout. Hein. C'est pour dire que. Tous les deux, on l'avait pas mis dans notre top 10 all-time. Et vu ce qu'on est en train de dire par rapport à Jokic et à Curry, bon, toi, t'as Hakim là devant et tout. Mais grosso modo, en fait, bah, c'est mort. Hakim, il va, faut espérer qu'il recule pas trop, quoi. Mais vraisemblablement, il va se faire dépasser. Et un des trucs Hakim, qui pourrait, genre, faire que Hakim ait un dossier lock top 10 all-time, c'est si justement, par exemple, il avait fumé les Bulls de Jordan.
Ouais.
Tu vois, en finale NBA, je veux dire, là, il a fumé des Knicks un peu plafonnés et un Magic trop jeune qui se fait swooper. Ce qui est magnifique, ce qui est incroyable. En plus, non seulement il les fume, mais en plus, genre, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment lui qui les fume.
Oui, oui.
C'est pas genre.
Non, c'est pas.
Il les fume, le tip-in de la gagne contre le Magic, c'est Hakim. Et puis le compte sur John Stark. En gros, les gros moments de ces finales-là, c'est Hakim qui est dedans.
Juste sur Jokic, qu'on soit extrêmement clair, il y a des gens, et moi je suis pas d'accord, mais il y a des gens qui vont te dire bravo d'avoir battu le Miami Heat 8ème
voilà.
de conférence.
Mais j'entends ça.
Et c'est factuel. Le Heat a été une des feel-good stories 2023. Ils ont été 8ème, ils sont allés jusqu'en finale NBA. S'il y a des gens qui disent ah bah bravo, t'as battu Bam Adebayo et Jimmy Butler, moi j'aime pas cet argument parce qu'il faut monter tout en haut de la montagne et que c'est un accomplissement dont tous les joueurs et basketteurs rêvent. Mais là où tu rentres vraiment et que tu veux aller mettre des mecs dans le rétro, c'est quand tu l'as pas fait qu'une seule fois. On adore Dirk, on adore Yanis, on adore toutes ces grandes stars qui ont pu le faire et qui ont pris leur franchise et l'ont mis tout en haut. Là où tu commences à devenir un intouchable, c'est quand tu l'as pas fait qu'une seule fois. Et c'est ce que je souhaite de ouf, parce que quand Jokic va le faire, et je pense qu'il va le faire,
on va voir.
Moi, je pense qu'il va le faire. Et je pense que quand ça va être le
c'est
cas,
possible, en tout cas,
là, on va pouvoir mettre certains monstres beaucoup plus facilement dans le rétro.
Voilà, moi, ce qui me fait... Voilà, le truc, moi, c'est que je trouve que là, en fait, OK, c'est actuel, donc c'est dur à juger, mais factuellement, le type domine la Ligue depuis 5 ans.
Ouais.
Il la domine. Il la domine et dans le pire des cas, c'est le deuxième meilleur joueur de la Ligue une saison, quoi. Et sinon, les autres saisons, c'est le meilleur.
Et c'est pas prêt de terminer, hein.
Non, et c'est pas fini. Parce qu'en fait, là, bon... Au moment où nous on fait ce top 10, le mec revient juste de blessure et tout. Mais en fait, il était sur un début de saison. Il était sur un début de saison, c'est plus de la domination.
Enfin,
c'est
Jokic, quoi.
C'est n'importe quoi.
Pour qui il juste, domine du coup, je suis très curieux.
Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux mon 5?
Ouais. Vu que je vois que t'es taquin, là. Parce que moi, c'est très clair, c'est Jokic en 6 et Hakim en 5.
Oui, bah après, du coup, il y a. Entre guillemets, sinon, ça voudrait dire que tu changes ton ordre de l'époque.
Et mes arguments et tout. Voilà.
Non, pas forcément. Non,
mais
parce
les arguments que je viens de déballer par rapport au fait de rentrer tout en haut quand t'es monté plusieurs
moi,
fois.
Moi, je répète,
montagne.
Je trouve que la discussion Wilt Hakim est archi réelle. Qu'à l'époque, on a mis tous les deux Wilt devant Hakim.
Ouais, mais ils avaient quoi? 2 places d'écart? 3 places d'écart?
Ah oui, non, je te parle juste de qui est devant qui. Ah oui. Bah, bien sûr, les écarts sont tout petits, hein, là, forcément. Hein, là, de toute façon, on n'est pas sur des gros écarts, hein, tu vois.
Vas-y, je t'en viens d'écrire. Ok. Bah tu vois.
Et Nico Jokic en 5 pour moi. Et je vais vous dire un truc, honnêtement, je suis très sérieux. J'avais vraiment une discussion pourquoi pas. Moi, Jokic en 4, vraiment, genre, bah, tu vois, regarde, tu vois, là, je suis là. Tu vois, il y a mon petit cercle. Tu le vois, mon petit cercle, là ? Il n'y a pas Hakim dans mon cercle.
Mais je suis d'accord. Hein.
Moi, j'étais dans une discussion dans le top 5 entre Shaq, Jokic et Wilt. Comment je les classe ? Et j'avais mis Hakim derrière.
Ouais.
J'avais mis Hakim, entre guillemets, 6ème, derrière, hors top 5, parce qu'à un moment donné, il faut bien trancher.
Et... t'avais un cercle, et puis t'as, à la fin de ton raisonnement, t'as trouvé la raison.
Ouais,
et la raison, t'as fait.
J'ai trouvé la raison. En 5. Fait, le dossier Wilt. Le dossier Jokic, je pense que là on en a assez parlé. Enfin, en tout cas, voilà. On l'a bien.
Moi, j'ai donc mis Hakim Olajuwon
en 5.
Et moi, toi, t'as Nico.
Ok. Ouais,
donc, juste...
Mais je pense que le dossier Wilt est effectivement très compliqué à juger parce que ce qui joue fortement contre lui, c'est entre guillemets. Là, tu disais, ouais, faut plusieurs titres et tout machin. Bon, il en a quand même deux.
Il en a deux.
Ouais. Années 60, années 70. Le niveau de domination de Wilt Chamberlain sur la ligue, bon, bah, pour le coup, lui, il regarde Jokic droit dans les yeux. Et quand on lui dit, ouais, t'as dominé la ligue pendant 5-6 ans, bah oui, Wilt Chamberlain a dominé la ligue pendant longtemps.
C'est ce cercle-là. C'est les mecs qui peuvent dire pendant 5 à 6 ans, j'ai regardé la NBA et vous deviez tous vous ajuster par rapport à
Hakim,
moi.
Il est pas dedans, hein, ce cercle-là pour
tout
moi.
Tout à fait. C'est le cercle, ouais, voilà. Shaq, Jokic, Wilt.
Voilà. Mais c'est pour ça que je mets Hakim derrière, moi, perso.
J'entends.
Perso. Mais après,
et après sur l'ensemble d'une carrière, comme je l'ai dit, on attend que Jokic fasse toute sa carrière. Il a,
il a 4 MVP, Wilt Chamberlain, qui symbolise bien sa domination sur la ligue.
Ah bah, Wilt.
Il a des records à plus quoi savoir en foot. Dont,
attention, je vais aller sur la page wiki de Wilt.
Énormément de records qui sont évidemment complètement intouchables et qui ne seront jamais touchés. Le record de minutes sur une saison régulière, vu, alors, je parle même pas de load management, je parle juste du mec qui joue plus que 48 minutes par match de toute façon. Donc,
alors, juste je rappelle,
c'est n'importe quoi.
Pour Wilt Chamberlain, rookie et MVP la première saison.
Voilà,
4 fois MVP, 11 fois meilleur rebondeur et à des niveaux, vous allez comprendre. C'est pas un bug, hein, les stats en quart, c'est 30-22. Voilà, 2 fois champion NBA, all defensive.
Sur 1000
fois...
matchs quand même, hein.
Tout à
donc
fait.
C'est beaucoup.
2 fois all defensive, pour ceux qui se posent la question, il n'y a pas eu les defensive team avant la fin des années 60, donc c'est normal parce
on
que sinon,
pas les contre non plus.
Il aurait été, voilà, 150 fois. Un peu compliqué. Il est évidemment extra. Non, mais regardez, il y a que
fait voir juste. Oui, c'est ça. Il n'y avait ni les contres, ni les styles.
Oui.
Parce que Wilt Chamberlain, il n'y a pas que les contres. Hein, oui. Y a les enfin, bref, c'était n'importe quoi.
Je rappelle que le
gras, c'est quand t'es le meilleur de la
oui.
saison.
Et le jaune, je rappelle que c'est quand t'es leader all-time. Donc la fameuse 61-62 à 50 points, 26 rebonds et 48,5 minutes de moyenne.
Voilà.
Un pur calme. Les saisons un peu au rabais où on va doucement devenir aussi un pivot qui devient un excellent passeur, 24 points, 24 rebonds, 9 passes de moyenne, hein. C'est la dernière saison
oui, bien sûr.
Avec les Sixers où tu es MVP, il n'y a pas de discussion possible. Titré avec ces Sixers pour faire chuter les intouchables Celtics dont on va parler dans quelques minutes. Le dossier Wilt, il est compliqué.
Le plus polyvalent, le plus incroyable physiquement et le plus polyvalent en termes de qu'est-ce qu'il sait faire sur un terrain.
Le plus dominant physiquement avec Shaq.
Avec Shaq, parce qu'il y a Shaq quand même en domination physique. Voilà. Après, il y a d'autres gars au-dessus. On va, Shaq, on verra où on le met. On va voir, on n'a pas encore classé Wilt. Hein. Moi, là, je viens de mettre Jokic en 5.
Oui, pourquoi tu fais le dossier Wilt, là ?
Je fais le dossier Wilt, c'était pour expliquer, parce qu'on vient de faire le dossier Hakim en comparaison avec le dossier Jokic. Mais moi, en fait, j'ai élargi. J'ai fait le dossier Jokic en comparaison avec Wilt, Hakim et même, pourquoi pas, avec Shaq. Mm-hmm. Ouais. Et effectivement, le dossier Wilt pose un vrai problème en termes de comment tu le compares et comment tu le juges, parce qu'il y a des records qui sont absolument intouchables, qui seront jamais refaits. Il y a des sujets de leadership où finalement le mec individuellement il dominait comme un fou, mais collectivement il a eu beaucoup de mal à gagner. Alors ok, il y avait des adversaires sérieux, mais il y a aussi
une ligue préhistorique.
Il y a aussi de lui.
Oh,
il y a
oui.
aussi de lui. Et ensuite, y a des colonnes statistiques qui n'existaient pas, donc du coup tu ne peux que te fier aux quelques images que tu peux voir. Il y a des images de Wilt à regarder et tout, donc ouais. On comprend bien tout à fait la domination du type. Mais du coup, comment tu l'as classé, toi ? Parce que là, t'as mis Hakim en 5, ok ?
Moi,
t'as
j'ai
Jokic
respecté...
en 6, t'as mis Hakim en 5, du coup t'as qui en 4 là ? On
moi,
met
j'ai
4
j'ai respecté tout à fait, on peut mettre 4. Moi, j'ai respecté mon top 100 all-time. Le seul débat, c'était Jokic. Mais après, j'ai respecté mon top 100 all-time. Donc, en 4, j'ai Shaq.
Ah oui, c'est vrai que toi, tu mets Wilt devant Shaq.
Oui.
Ah, ça, je peux pas le faire, moi.
J'entends. Bon, enfin, tu peux pas le faire. T'as une place d'écart.
Je peux pas le faire.
Ouais, d'accord. Et mec, il y a une place d'écart et dans le top 100 et dans le top 10. Moi, j'entends. Hein. Moi, je dis juste sur Wilt, ok, on est d'accord. Autre ère, autre période. Il y a un débat entre les deux, entre Wilt
et Shaq.
En 4,
c'est Shaq, toi.
En 4, moi, j'ai Shaq. Et moi, j'entends juste les... Oui. Les éléments que j'ai par rapport à Wilt.
I am listening.
Un, quand t'es un joueur qui a autant changé les règles de ton sport et qui a autant dominé la NBA pendant toutes les années de ta carrière, c'est quasi intouchable. Franchement, Wilt, tu l'as dit, à partir du moment où il met son premier orteil en NBA et quasiment jusqu'à la fin, bien sûr qu'il y a tout un tas de débats sur leadership, comme tu l'as dit, le niveau de compréhension de comment gagner, pas de problème. Mais le mec, il a défini la façon dont le parquet est dessiné. Oh, il a redessiné la façon dont les plexiglas sont faits. On va en parler avec Shaq aussi, mais attention.
Je valorise, hein, mais
c'est extraordinaire.
Pour moi, il a pas plus dominé la ligue que Shaq. C'est juste que c'est différent.
Ouais, c'est différent.
Statistiquement, bah évidemment, ouais. Mais pour moi, il a pas plus dominé la ligue que Shaq.
Et moi, tu vois, pour en revenir à ton histoire par rapport à notamment Jokic versus Hakim, moi, il y a un truc qui me rend barge avec Shaq et où je n'ai jamais pu passer ça. Mm. C'est qu'un mec aussi dominant qui est une seule fois MVP, c'est un Trent Savate.
Okay.
Shaq était censé être le pivot le plus dominant et le plus intouchable de l'ère moderne. Et si on prend les statistiques et les impacts en playoff et le tripit qu'il a fait, etc., il y a eu une séquence de 3 ans où la NBA devait juste savoir une chose, c'est comment arrêter ce type, mais bravo, le trophée, il est pour Shaq et les Lakers. Mais je trouve que c'est une des plus grosses abominations et un des trucs que je regrette le plus quand j'ai découvert la NBA et que j'ai grandi avec ça, c'est qu'un mec aussi fort et dominant n'ait pas pleinement exploité son potentiel. C'est-à-dire que Shaq, il est tellement fort, et tu vois, c'est un compliment que je vais lui faire, que le mec, il est top 4 all-time et je suis limite déçu.
Mais bien sûr.
Parce que Shaq, il aurait dû être deuxième.
On peut être déçu.
Parce que Shaq, il aurait dû être deuxième, Alex. Il aurait dû mettre Bill Russell et Will Chamberlain dans le rétro.
Ouais. Bah moi, il y a Will derrière lui.
Ouais.
Mais... pareil, hein, on est dans une discussion très, très serrée. Après, sur les histoires de MVP, j'entends, je comprends ce que tu veux dire. Non, mais je comprends. Après, pardon, hein, juste, mais il y a aussi les systèmes de vote, de popularité, attends, qu'on fait que chaque aurait pu avoir plus de MVP, aurait dû avoir plus de MVP.
Il aurait dû écraser tout le monde.
Quoi ?
Il va pas débattre avec Steve Nash. Oh, il aurait dû écraser tout le monde, Shaq.
Non, Steve Nash, c'est un peu tard pour Shaq. Hein.
Non, il est deuxième du classement, d'ailleurs,
oui,
Steve Nash.
Mais...
bon, avec le 8, ah,
c'est pas celui qui me choque forcément,
oui,
le plus, moi.
Ou Malone, si tu veux, ou qui tu veux, ou KG,
Iverson,
ou
même,
ou Duncan, ou Iverson. Shaq, il aurait dû être 5 fois MVP, 4 fois champion. Il aurait dû mettre tout le monde dans le rétro.
Est-ce qu'il fait des mauvaises saisons? Il a pas eu le titre, mais il fait des putains de saisons de dominant, quoi.
Ouais.
Ces années-là.
Bien
après
sûr.
On lui a pas filé, tu vois. C'est un peu comme le MVP de Charles Barkley en 93.
Oui.
Bon, je suis très content, je suis fan des Suns, j'adore, oui, Barkley, hein. Bah, franchement, ça aurait dû être Jordan.
Tout
non
à fait.
Ou c'est moi.
Et c'est là qu'on en revient à quelque chose que tu as mentionné avec.
Ou même LeBron qui est pas MVP de 2011.
Oui.
LOL.
Bien sûr.
MDR, ou je peux comment on dit.
On dit MDR, tu peux tout à fait y aller encore en 2006. Et je reprends un des éléments que tu as mentionné par rapport à Patrick Ewing en tout début de top 10.
Oui.
C'est moi ou Shaq, il a joué avec un des 15 meilleurs joueurs de tous les temps. Parce que Will, c'est un peu plus compliqué quand même. Shaq, on peut dire ce qu'on veut, il a joué avec Kobe Bryant.
Jeune Kobe, mais déjà fort Kobe,
ah,
bien
putain,
sûr. Oui, bien sûr.
J'avais fait une TBNL, franchement.
Oui,
Kobe,
oui, oui, oui. Enfin, elle est pas finie, la TBNL.
Elle est pas finie,
mais
franchement, Kobe, c'est énormissime comme coéquipier. Limite, on fait le classement là des pivots.
Oui.
Qui a eu les meilleurs coéquipiers? Tout en haut, on va parler d'un mec qui a été.
Attends,
bien
oui,
nourri,
voilà.
Hein, voilà. Mais oui, mais derrière.
Oui, oui, non, mais.
Wilt aurait rêvé d'avoir un coéquipier comme ça. Wilt aurait rêvé aussi d'avoir, peut-être quoi, selon toi, le meilleur coach de tous les temps, Phil Jackson?
Non mais attends,
l'impact de Phil Jackson sur Shaq,
mais
en
du
parle.
Coup Shaq, il en a fait des titres par contre de ça.
Ouais, bien sûr.
Ok, MVP de la régulière, on peut discuter. Je voulais sortir ses stats là, mais j'ai un petit, ça bug un peu. Mais c'est des stats de qui auraient dû ou pu lui valoir le titre de MVP sans aucun problème.
Ouais, bien sûr.
Les années où il l'est pas, je veux dire.
Shaq. Ouais,
bien sûr.
Sûr.
Ensuite,
stats,
il fait une des saisons que toi et moi on a classé parmi les plus dominantes de tous les temps, saison de Shaq 99-2000, c'est une énorme.
C'est le bug de l'an 2000.
C'est une immense dinguerie, complètement n'importe quoi. Scoring,
30 points, 10 rebonds, 4 passes, 3 contre.
Voilà. Voilà. Bonjour, c'est moi. Donc, si tu veux, oui, il a qu'un seul titre de MVP. En revanche, il a 4 titres, 4
ouais.
bagues. Avec deux arrières différents, parce qu'il joue aussi avec Dwayne Wade. Hein. Kobe, c'est très très fort. Dwayne Wade, c'est quand même très sérieux également.
MVP des finales.
MVP des finales 3 fois. C'est-à-dire que quand il joue avec Kobe, le patron, c'est quand même Shaq. Même si Kobe progresse à vitesse grand V, il est encore jeune et tout. On le dit tous. Enfin voilà, Kobe est le lieutenant de Shaq.
Oui, il n'y a pas de.
Allez, en 2002, peut-être ils sont co-machin, mais vite fait quand même. C'est quand même Shaq vraiment le leader. le boss et le meilleur joueur et le gars qui pose des problèmes aux défenses et que, dont, sur lesquels les défenses sont comment dire, focus.
Oui.
Donc la domination de chaque est complètement folle. Complètement folle.
Ouais.
Et jamais vu vraiment en fait à part Wilt. Domination physique, domination athlétique. Hein. Ce Shaq, il n'était pas que grand et gros. Hein.
Mais non, il était extraordinaire.
L'agilité est complètement folle, la vitesse de déplacement
Prime
et tout.
Prime Shaq, il discute, comme tu parlais avec David Robinson et tout, Prime Shaq, c'est incroyable à voir athlétiquement.
Ouais, il est énorme. Et Prime Shaq, il n'y a pas grand monde qui discute avec Prime Shaq, en fait.
Non, non. Bah, Wilt. Voilà, athlétiquement.
Ouais, même en stats ou quoi. Tu vois, en stats, ouais. Ouais, parce qu'en stats, Shaq, c'est 30, c'est 30-15, quoi. C'est des finales NBA. En... Alors, ouais, l'opposition, c'était pas ça. Mais justement, Shaq, ouais, en l'opposition, c'est pas ça.
Bon, bah,
c'est,
gagner.
C'est 36-17.
Ouais, ouais,
donc,
bien
voilà,
sûr.
C'est le 36-17, ouais. C'est le Minitel.
Et pendant, et je le répète, moi, je l'ai 4ème Shaq, pendant l'espace de quelques années, Shaq a changé lui aussi le jeu. Il a changé la façon dont on recrutait, il a changé la façon dont les paniers sont faits, il a changé la façon dont les pivots étaient formés, c'est-à-dire qu'il fallait que tu recrutes dans ton équipe des mecs capables de faire 6 fautes.
Voilà, et suffisamment costaud pour pas trop reculer quand il y a Shaq qui est là, quoi.
Et pas s'en prendre. Juste, moi, je ne lâcherai pas le morceau. Shaq, c'est le plus beau compliment que je puisse lui faire.
Oui, oui,
il
oui.
est top 4 all time, et pour autant, j'ai l'impression qu'il a underachieve.
Ok.
Parce que franchement,
moi aussi il a underachieve, ça je suis d'accord là-dessus.
Et bah du coup je peux pas le placer devant les mecs qui sont au-dessus.
Mais moi je trouve que Wilt il a underachieve aussi un peu.
Ouais.
C'est pour ça en fait.
Pour d'autres raisons.
Ouais. Après évidemment on va pas refaire l'histoire, mais Wilt a cassé des barrières grâce à sa domination physique et technique. Hein. Shaq et Wilt c'est quand même des mecs balle en main, il y a du toucher et tout.
Allez, c'est
des
fadeaways, c'est Wilt Chamberlain.
Ils étaient mauvais au lancer franc. On est tous d'accord là-dessus. Ouais. Et je pense que dans l'ère moderne, je sais pas si les mecs auraient pu vraiment shooter à 3 points par rapport à voir. Hein, voilà. Mais par contre, il y avait du toucher, du finger roll, du hook, du machin, du ce que tu veux.
Oui.
Je pense que Shaq, dans les années 60, si ça se trouve, lui, si ça se trouve, lui aussi, il fait 35-22.
Oui, il fait 50.
Voilà.
Avec une petite différence, je pense que Wilt, comme tu l'as vu sur l'argumentaire, notamment Olajuwon versus Jokic, ne pas sous-estimer la défense de Shaq, mais Wilt Chamberlain.
A priori, c'est au-dessus, ouais, Wilt Chamberlain. Encore que, je sais pas, moi je trouve que Shaq il était quand même bien dissuasif, mais.
Oui, il était
effectivement, il était moins.
Au niveau des autres cas.
C'était différent comme ligue, il y avait moins de spacing. Par exemple, je pense que dans une ligue avec plus de spacing, ça aurait été très intéressant de voir des Wilt et des Shaq.
Si tu mets sur un banc, tout à fait, si tu mets sur un banc Wilt, Olajuwon, Jokic et Shaq, qui sont les deux meilleurs défenseurs dans le groupe?
Je pense que je prends absolument Wilt. Mais je pense qu'entre Wilt et Shaq, je pense que Jokic est a priori, pour des raisons principalement athlétiques, je crois qu'en intelligence de jeu, de placement, de tout ça, rebond, le Nico, il rigole pas. Mais évidemment, athlétiquement, il peut pas rivaliser avec ces gars. C'est impossible. Après, je pense que Wilt et Shaq vont être derrière Hakim, parce que Hakim a vraiment un truc en plus polyvalent et tout. En défense, je veux dire. Après, ça aurait été intéressant de voir ces espèces de surfreaks. Wilt et Shaq sont encore plus des freaks athlétiques que Hakim. Hakim, c'est déjà très sérieux, mais je pense que Wilt et Shaq, c'est encore un peu plus. Oui, parce qu'en plus, Hakim, c'est un peu plus doux, c'est un peu plus suave, c'est au poste aussi, mais Early et Hakim, c'est un freak. Non, mais c'est un freak, mais c'est un freak qui fait 25 kilos de moins que Shaq. Oui, c'est pas la peine, hein. C'est pas pareil. C'est... Oui, comme on disait, j'aurais bien aimé voir ce mec-là dans la NBA un peu à queue avec du spacing. Parce que j'imagine bien Hakim switcher. Mais je pense qu'on serait très surpris de voir un Wilt dans un Shaq switcher en fait. Tu sais que ça bouge bien, hein. C'est des types qui bougent extrêmement bien et ça pose en difficulté. Mais en gros, voilà. Donc tout ça c'est difficile parce que Jokic, c'est ça son problème aussi. C'est que la NBA dans laquelle il joue, par rapport aux moyens athlétiques qu'il a, il y a des problèmes pour les vendre. Avec les petits shoots de partout, bien sûr. Dans les années 90, Nico. Limite, ça serait moins sa défense un peu plus compliquée. Je sais pas si je m'explique clairement. Après, c'est que des hypothèses, mais c'est sur ça qu'on fait ses placements,
bien sûr.
Ouais. Non?
Bien sûr, a priori, il y a plus de surprises, mais pour moi, elle est intouchable.
Oui, chaque 3.
Moi, j'ai même pas 3. On va parler en moins en large, mais voilà, en gros, quelque part, vous voyez avec ce classement, parce qu'en gros, il y a eu 20 minutes sur les places 19, 8, 7, et après on est sur 6, 5, 4, 3.
Bah, c'est là que c'est intéressant.
Et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire. Mais il y a des soucis, parce que je pense qu'il y a des gens, moi je vais être très choqué, mais par rapport à ce qu'il existe dans son village, il y en a qui placent aussi Bill Russell dans d'autres conversations. Mais ça veut dire que toi et moi, encore, il y a deux mecs qui sont.
les sacro-saints intouchables qui nous l'aident, c'est quand même bien d'avoir vu ensemble, et après on discute. Et après on discute. Je suis d'accord sur l'ordre, mais je ne suis pas d'accord sur le premier, il y a un tel fossé. Non, c'est ce que je dis, mais les gens qui ont vu ensemble, et après on discute, non, il y a deux. Mais voilà, pour nous, oui. Moi je dis, mais c'est pas un fossé. Ça, je veux dire, pour nous, il y avait un, enfin, bon, il y avait un et deux. Oui, bien sûr, pour beaucoup de gens, notre numéro 2 va être peut-être en 6, en 5, en 7, en 3, tout à fait sur l'histoire, parce que la taille, parce que etc. Mais pour toi et moi, on sait qu'il y a deux. Oui, on sait qu'il y a deux. Et moi j'ai mis chaque en 3, bien sûr, on a 8 en 3, avec chaque en 4, et moi j'ai 8 en 4, et j'ai 8 titres dans mon top 5 déjà. Je le répète, si vous avez envie de mettre qui sur votre podium,
Bien sûr.
Non, Bilou, il est deux. Hein.
Bilou, il y a un côté injouable, il y a un côté régularité, il y a un côté leadership, il y a un côté changement tactique notable, obligation de changer tactiquement la façon de voir le jeu et tout. Il y a comment trouver ton rôle, et bien sûr qu'il va dépasser largement son rôle, mais dans un rôle précis, faire un truc qui est jamais égalé, c'est-à-dire un rôle de pivot défensif, rebondeur, lanceur de contre-attaque. C'était un peu plus petit que les autres, mais tu sais que c'était un sacré freak lui aussi. Hein.
C'était un athlète de fou malade. Il sautait au-dessus des athlètes. Non, non.
Donc, et en plus, souvent on dit oui, offensivement ceci, offensivement cela. Bah, en fait, les stats offensives de Wilt sont pas si dégueux que ça. Quand tu regardes, bon, il n'y a pas tant d'images que ça, c'est pas comme aujourd'hui, on peut pas tout revoir et tout, mais en fait, le gars a un vrai arsenal offensif.
Eh oui.
Un vrai arsenal offensif, c'est juste qu'en fait, bah, il jouait avec Bob Cousy, avec Sam Jones, avec un peu après avec Havlicek, effectivement, enfin, en gros, avec beaucoup de joueurs dans les extérieurs, bah, qui avaient le ballon, qui scoraient. Et en fait, il y a un peu un côté, je dis pas qu'il aurait dominé offensivement comme un Will Chamberlain ou un Shaq, hein, attention, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que clairement, s'il avait eu plus de ballons, il aurait beaucoup plus scoré. Et on parlerait peut-être moins de ça, parce que montre un peu les stats de Bill Russell.
Je vais les montrer tout de suite, en effet. Elles sont juste là.
Bon, il score quand même un peu. Alors évidemment, après, on voit bien qu'il est concentré sur d'autres tâches. Donc lui non plus, hein. À l'époque, comme Wilt, il n'y avait pas les rebonds de comptabiliser.
Enfin, les contres.
Les contres, pardon. Les rebonds, ils étaient comptabilisés. La preuve, c'est qu'il en prend 23 par match.
Ouais.
Voilà. 23 par match. Bon, je sais que ce n'était pas la même NBA, mais quand même. Hein.
À l'époque, ce sont les joueurs, les pairs qui votent pour le MVP. Pépère, il l'est 5 fois.
Ouais.
5 fois MVP.
5 fois MVP élu par ses pairs. Hein. C'est-à-dire élu que là, il n'y a pas d'histoire de fatigue des votants.
Non.
Genre, ouais, oh non, cette année.
T'es fatigué par Bill.
Cette année, on va le donner à lui. C'est quand... Elle est belle l'histoire. Bah, elle est belle l'histoire, mais peut-être qu'il n'est pas MVP. Là, il n'y a pas de ça.
Tu as été tellement dominant. On en revient au niveau de domination. Tu as été tellement dominant du moment où tu es arrivé à la fin que même lorsque tu dois être joueur et coach à la fois, tu es champion NBA.
Ah oui, non mais.
Lorsqu'il fallait être tactique, stratégique, casser des barrières. J'ai même pas envie de parler de social parce que là, on est dans une autre stratosphère. Mais le premier coach afro-américain de l'histoire de la NBA. Le mec est coach et joueur et va gagner chez les Lakers de Wilt Chamberlain. C'est la seule saison en effet où il y a le MVP des finales pour Jerry West, le pauvre et perdant. Mais c'est Bill Russell. De quoi on parle ? Aujourd'hui, moi je rêve qu'il y ait des jeunes qui débarquent avec la mentalité à la Bill Russell et qui disent... On verra pour les stats défensives et les stats offensives, etc. pour mon contrat. Par contre, je vais tout gagner. C'est le gagneur maladif. C'est un compétiteur qui vomissait avant les matchs parce qu'il était trop tendu et qu'il avait besoin de se décharger avant de donner l'intégralité de son corps et de son âme sur le parquet.
Et puis je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et en plus, j'insiste, 5 fois MVP. Ça veut dire que, ok, ouais, ça se corrait peut-être pas tant que ça. Enfin, c'est le meilleur joueur de la ligue quand même, par contre. Hein, puis ouais. Élu par ses poteaux. Pardon, genre, juste, excusez-moi, genre, qu'il faut quand même le dire. 13 saisons, 12 fois All-Star, 11 fois champion.
Alors oui, préhistoire, mais en fait, le domine trop.
Le taux de réussite est sale. Alors oui, c'est des titres collectifs, mais il y a quand même 5 fois MVP, il y a au moins 4 fois ou 3 fois, peut-être 4 fois, 3-4 fois rebondeur. Donc dans une NBA où il y a Wilt Chamberlain, qui, comme on vous a montré les lignes de stats, prend des rebonds,
tout, ouais.
A plus quoi savoir en faire. L'autre, il est 4 fois ou 3 fois, combien de fois meilleur rebondeur de la Ligue, Bilou?
J'ai fait voir un coup. 4 fois.
4 fois meilleur rebondeur de la Ligue au milieu de tout ça. Donc,
ouais.
En gros, individuellement, c'est ça que je veux dire. Les lignes statistiques de Bill Russell, ok, ça scorait un peu moins. Mais sinon, individuellement, ces lignes statistiques, elles regardent droit dans les yeux tous les autres pivots qu'on a cités. Et je finis juste là-dessus. Lui non plus, il n'a pas la colonne de comptabilisation des comptes, parce que sinon, je pense qu'il serait deux devant Hakim.
Bien sûr.
Il serait deux devant Hakim.
Bien sûr, bien sûr.
Il y aurait Wilt et Bill.
Vous savez que vous mettez tout le monde d'accord lorsqu'en 1962, il y a Oscar Robertson qui fait la première saison en triple double de moyenne. Que Wilt Chamberlain est en 50 points, 25 rebonds, et que le MVP de la saison, c'est Bill Russell.
C'est Bill Russell.
Il n'y a pas à discuter. Le meilleur à ce moment-là, et pendant des années du basketball, c'est Bill Russell.
J'aimerais bien, je trouverais ça très intéressant qu'aujourd'hui, en NBA, à bulletin secret évidemment, mais que ce soit les joueurs qui votent pour le MVP.
Ouais.
Je me demande si ce ne serait pas Jokic tous les ans, tu vois. Ou est-ce que justement Jokic il en aurait moins? Je ne sais pas, je serais très curieux de savoir. Est-ce que genre les mecs diraient non, Yanis, même s'il gagne pas, je sais pas, ou Embiid ou un autre gars quoi, tu vois, que Shea ou Jokic.
Je pense que ce serait très intéressant d'avoir un vote des coachs et un vote des joueurs parce qu'on aurait des choses très différentes. Je pense que les coachs seraient quasi unanimes autour de Jokic parce que c'est un calvaire. Tactique, stratégique, technique,
ouais.
Etc. Par contre, pour les joueurs,
je
mets juste une astérisque.
Je sais pas.
Je trouve que quand on regarde les joueurs s'exprimer aujourd'hui, il y a une espèce d'emphase souvent sur quel handle, quel skills, quel machin et tout. Et parfois, ils ont tendance à surestimer certains qui ont des très très gros skills. C'est-à-dire que si tu demandes à certains, ils vont avoir des visions sur DeRozan que nous, on n'a pas.
Oui, enfin, ils vont pas te foutre DeRozan MVP non plus. C'est ça
mais
que
si
je veux
ils vont te dire, par exemple, je dois prendre le bag de tel joueur par rapport à un autre, moi, j'aime pas, mais je vois beaucoup de joueurs s'exprimer.
Justement, je trouverais ça plus intéressant en fait que d'avoir des votes de médias.
Moi, je pense qu'il y a des mecs qui mettraient tous les ans KD podium du MVP. Tu vois.
Mais pourquoi pas? J'écoute, ou LeBron, ou Luca, ou Kawhi, ou je ne sais pas, mais justement, je serais vraiment très curieux.
Et Yanis serait genre 5-6ème, parce qu'il dirait ouais, mais mec, techniquement.
Je suis pas sûr de ça.
Il y a beaucoup de joueurs.
Regarde Wemby quand on lui a demandé, il a dit Shea et Yanis, il a dit.
Parce que c'est tout, ouais.
Bah voilà, mais c'est un argument qui se tient.
Absolument.
Hein.
Je sais pas, c'est mon avis. Je te dis qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont fait de la hate aussi sur Yanis parce que c'est pas le même
bac technique. Harden ne votera pas Yanis. Ça, on est d'accord. Ah. Mais je sais pas lequel des deux aura le plus de voix.
Par contre, c'est marrant. Il y a aucune discussion en 1.
Non.
Sur un pivot, sur un poste d'une difficulté telle et avec autant de légendes, il y a le premier.
Non, il y a rien. En 1, il y a Karim Abdul-Jabbar. Karim Abdul-Jabbar est dans la discussion du GOAT. Du GOAT tout court. Du basket. Donc, bah oui, c'est le meilleur à son poste.
On a dit.
Oui.
Que. On voulait plein de MVP de saison régulière. Il n'y a personne qui en a autant.
Non, mais il a tout.
Enfin, qui en a plus, pardon.
Le dossier de Karim, il y a tout dedans.
C'est le plus gros dossier.
Oui.
C'est le numéro 1 all-time. 19 fois All-Star, longévité. Deux fois meilleur scoreur de la NBA. L'arme la plus indestructible du basket, le Skyhook.
Il est rookie de l'année, non ?
Meilleur rebondeur, rookie de l'année. Deux fois MVP des finales, 6 fois MVP de saison régulière. 15 fois All-NBA, il a été... à quoi, à 14 ans de distance MVP des finales,
genre en 70 et en 72
et 86,
71
et 85,
ouais, parce que 70 c'est les Knicks, 72 ouais. C'est les Lakers, c'est 71 et 85, ouais.
4 fois meilleur contreur, donc si vous voulez du two way à tout, évidemment l'équipe des 75 ans. Je vous mets quelques stats, Alex, c'est le meilleur pivot de tous les temps et c'est pas demain qu'on va venir le chercher.
C'est le meilleur pivot de tous les temps, il était déjà le meilleur à l'université, ensuite il est arrivé en NBA, il a complètement changé les Milwaukee Bucks. Ils ont été champions 16. Alors qu'il était sophomore, hein, sophomore champion. Il tourne en 31-16.
À 38 ans, il est encore en 23-6.
Lui aussi, il apparaît pas aussi haut que des gars comme Hakim ou Dikembe dans les contres, mais on lui a en enlevé 5 petites saisons en scred, puisqu'on commence à compter les contres qu'à partir de la saison 73-74.
Ah ouais.
Sauf que si on avait commencé dès le début, je pense que notre ami Karim, il y en aurait 4 fois... Quoi, il joue 80 matchs, quoi. 4 fois 8, 32. Il aurait 1200, entre 1200 et 1500 contres de plus. Faut aller voir le total, mais à mon avis, Hakim, il va pas lire. Il va pas lire vite fait.
Il en a 3100. Non, il en a rétro. Il
en
a 4400
contre. C'est ça dont je parle. Donc, c'est complètement dingue. Offensivement, on parle tout le temps de son skyhook. Là, la photo que tu as, là, je l'ai en carte, cette photo. J'adore cette photo. Ça déchire. Le move est incroyable. On parle tout le temps de ce move, mais attention. Hein. Hey, Karim Abdul-Jabbar, il y avait fort au rebond offensif, donc beaucoup de petits paniers comme ça. Il y
avait
lancé, évidemment, son skyhook. Il y a son jeu de passe, qui était pas si dégueu que ça. Il y avait aussi son adaptabilité à un peu tous les styles de jeu, c'est-à-dire que c'est un mec où il a joué dans une NBA, la NBA des années 70, où la pace était complètement folle, et les années 80 également. Et il a joué dans des équipes où ça pouvait courir, notamment par exemple le Showtime des Lakers avec Magic Johnson, où il suivait complètement le rythme et tout. Il était devenu un trailer complètement dingue, voire des fois il était en avance avec Worthy et tout. Mais sur demi-terrain, si t'as une galère, bon bah balle au poste. Hein. Balle au poste. Donc il y a vraiment les deux. Il y a les deux côtés du terrain. Il y a un peu de tout. Et très haut niveau en attaque.
Il aura fallu l'anomalie athlétique LeBron James pour qu'il y ait un nouveau meilleur score de tous les temps.
Il y a l'anomalie athlétique de longévité de LeBron James.
Mais c'est ça qui fait d'endurance pour battre Karim. Hein.
Et qui le met dans le rétro de fou. Mais en fait, quand tu regardes bien, Jabbar, même des gars comme KD, par exemple.
Il nous posait la question l'autre jour.
Ouais, mais KD, il est à 31 000 et quelques points. Ce qui est extraordinaire, le mec a raté deux saisons quasi complètes. C'est complètement fou hein, ce que fait KD. Sauf que le problème, c'est que là, pour aller chercher Karim Abdul-Jabbar, KD, faut qu'il envoie encore quatre saisons comme celle qu'il fait en ce moment. Quoi. Facile, quoi.
Ils ont posé la question l'autre jour.
Ils ont 7000 points, 6500 points d'écart.
Ils ont posé la question l'autre jour à Kevin Durant. Il a dit, vous pensez que vous pouvez truc? Il a fait, Kobe et MJ, je peux et on va voir et tout. C'est extraordinaire, mais...
Au bas de Jordan, ça serait même surprenant que KD n'aille pas le chercher.
Tout à fait. Mais on lui a dit Abdul-Jabbar, il a fait. Les gars, Karim, vous discutez
déjà,
aussi.
Déjà, s'il va chercher Malone, ça sera déjà monstrueux.
C'est extraordinaire.
Monstrueux, déjà.
Non, mais dès que tu dépasses les 35 000 points en carrière, tu t'es.
Voilà. Donc, c'est ça dont on parle. Karim Abdul-Jabbar. Ensuite, tout à l'heure, et c'est pas un critère forcément si important que ça, mais ça compte un peu quand même. T'as évoqué les côtés sociétaux et tout pour Bill Russell. Bon alors là, Karim Abdul-Jabbar.
Le nom est derrière lui, le trophée.
Ah, c'est ça, hein.
Le j'ai pas le nom du trophée Abdul-Jabbar, mais c'est le trophée social activiste de la NBA, si je dis pas de bêtises. Parce que MVP, c'est Mike maintenant.
C'est Jordan.
MVP des finales, c'est Bill.
MVP des finales, c'est Bill. Le trophée, c'est le Larry O'Brien, le trophée c'est quand ça. Tu gagnes le titre.
All-Star, c'est Kobe.
All-Star, c'est Kobe. Le trophée du défenseur de l'année, je crois qu'il a pas de nom.
Oh,
si. Vas-y, vérifie. C'est qui? C'est Bill. Bah non, ça peut pas être Bill Russell. C'est quoi? C'est le trophée Ben Wallace.
Je crois que c'est Hakim. Hein.
Ah ouais, bah super. Bah tu vois, je savais même pas. Tu vois, bah, c'est bien.
Mais je suis pas sûr.
Vas-y. Fais voir. Le trophée il s'appellerait Hakim Olajuwon. C'est marrant, ça me dit rien du tout. J'ai peut-être raté.
Ils n'ont peut-être pas.
Pour moi, il est pas nommé.
Il est peut-être pas nommé.
Mais je peux me planter. Non, tu vois, ça serait. Tu le trouverais tout de suite là, non?
Hakim Olajuwon Trophy.
The Hakim Olajuwon Trophy, je n'avais même pas capté. Ok.
Vous en faites ce que vous voulez.
Il en a eu deux, hein. C'est bon. Ouais, mais puis, bon, ils auraient pu prendre.
Ils auraient pu en mettre 7 pour Hakim. Enfin, bref.
Ah oui, oui, complètement. Non, mais tu vois. Bon, malheureusement, Tim Duncan n'a jamais été Deep Boy. Hein.
Oui, bon,
sinon, ça serait le Tim Duncan Trophy potentiellement. Ou...
Ouais, bah oui.
Ils auraient pu appeler ça le Gary Payton Trophy quand même. Non? Quand même. Les gars.
Mais bien, oui, on rigole social, un peu, social activisme
tu sais,
qui arrive.
Tous les ans, il y a Gary qui arrive pour remettre un trophée. Ça peut être bon.
There you go, bitch. Non, mais Karim au niveau. C'est l'athlète le plus complet. Parce que t'as la longévité, t'as les stats, t'as le palmarès.
Non, c'est pas l'athlète le plus complet.
Non, je parle en carrière.
La carrière la plus complète.
La carrière la plus complète parce que t'as la longévité, les stats, l'attaque, la défense, les totaux, les titres, le MVP, l'impact hors du terrain. Vous voulez quoi de plus en fait?
Il est fort jeune, il était fort encore vieux.
Limite sous-estimé dans la discussion du GOAT.
Limite sous-estimé dans la discussion du GOAT, mais enfin déjà, il est dans la discussion du GOAT. Si tu veux que, juste qu'on soit clair, il n'y a qu'un seul pivot qui peut être dans la discussion du GOAT. C'est Kareem Abdul-Jabbar.
Aujourd'hui.
Oui, oui, ah bah oui, non mais aujourd'hui, on va quand même doucement avec mon Serbe. Non, doucement.
Non, je parlais pas de lui.
Ah, tu parlais pas de lui? Ah ouais. Voilà, attention les gars.
Il y a du chemin.
Ouais, voilà, c'est ça. On lui souhaite, on lui souhaite.
On lui souhaite, mais il y a du chemin.
Ouais, ouais, non, non. Mais bon. Est-ce que. Tiens, j'ai des petites questions pour finir. Est-ce que tu penses. Petite question comme ça, gentille, parce qu'après on a une plus grosse question à se poser, je pense. Mm-hmm. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui j'ai Jokic en 5, j'ai hésité à le mettre potentiellement 4. Je pense que je pouvais pas le mettre plus haut que 4 aujourd'hui. Toi, tu l'as mis 6, t'as hésité aussi un peu et tout. Est-ce que tu penses que tu parlais tout à l'heure d'une bague potentiellement en plus pour Jokic qui lui ferait gratter des places? Donc, ça veut dire que tu me dis si j'ai des conneries, c'est-à-dire que tu imagines potentiellement pouvoir mettre Jokic devant du Hakim, devant du Wilt, si Jokic se retrouve avec deux bagues, voire allez, soyons fous, 3 bagues
Jokic,
ou un autre MVP.
Jokic, pour moi, peut être 3e. De ce classement.
Il va pas chercher ni Russell ni Cage.
Non.
Genre, même si ça se trouve, il joue encore 10 ans, hein. T'en sais rien.
S'il joue 10 ans et qu'il remporte 4 titres,
oui.
Pépère,
ah, oui.
Je vais commencer
ça
à
va
dire
une autre
bon,
discussion.
Ça va être une autre discussion, exactement. Mm-hmm. Mais là, en l'état,
okay. Tu l'imagines potentiellement aller chercher du Wilt et du Hakim.
Le plus beau challenge pour Nikola Jokic, c'est de mettre définitivement chaque Wilt et Hakim dans le rétro. C'est pas la moitié d'une opération, mon frère.
C'est un gros challenge.
Je sais pas si tu sais, mais il va lâcher 2-3 gouttes. Hein.
Ah, oui, 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 oui.
Mais donc, longévité, pas de blessure, continuer cette domination, s'asseoir tout en haut de la montagne. Encore, 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 on y va. Ce qui fait aussi qu'on est émerveillé par Steph en 2022, c'est parce qu'après avoir été assis sur la montagne, 1, 2, 3 fois avec du KD, etc.
Sans être MVP des finales, là au moins il chope.
C'est le mec qui remonte en haut de la montagne.
Il chope le MVP des finales,
MVP
le Steph, ça c'est vrai.
Et ça c'est ce qui fait que d'ailleurs tu peux dire je suis dans les 10, démerdez-vous avec ma place.
Et donc, ok, est-ce que c'est important.
Pour toi, il peut être deuxième du classement all-time, Jokic?
Oui.
Devant Bill?
Oui. Il peut. Et en fonction de la longévité qu'il enverra.
Qu'est-ce qu'il faut faire?
Bah, il faut jouer longtemps. Là il est à sa 11e saison et il est très régulier, il a un beau nombre de matchs, mais il va rentrer il a la trentaine et tout, il va rentrer dans les années où on sait que les blessures commencent à un peu plus peser sur ton corps et patati et patata, même s'il a un jeu qu'on peut imaginer se projeter dans le futur.
Bien sûr.
Hein, en scoring on verra, oui. Mais la passe, les rebonds, les pourcentages et tout, il peut les entretenir et tout. Moi il y a d'autres paramètres après où c'est là que tu fais des petites différences, et par exemple tu vois, il y a Jokic qui prend une autre bague ou, allez, soyons fous, deux autres bagues. Si, le mec, s'il gagne 3 bagues avec les Denver Nuggets.
C'est énorme. Moi, ce que j'aimerais aussi.
Parce que, admettons, il y a un gros trade. On ne sait pas ce qui se passe. La NBA, ouais. On sait qu'elle te réserve des surprises. Je ne dis pas que les Nuggets vont un jour trader Jokic. Je ne le pense pas, mais Genre, tu sais, des dingueries genre Yokicho Nyx ou Yokicho Mavs ou des dingueries quoi. Tu vois, non mais et qu'il fait des bagues dans d'autres clubs. On verra ce que ça peut donner.
Moi, ouais, bah tu vois, moi les gens, peut-être certains le savent depuis longtemps, j'ai une très grosse appréciation pour la loyauté d'une franchise à un joueur et d'un joueur à sa franchise, et donc je trouverais ça encore plus fort qu'il fasse toute sa carrière à Denver et qu'il accumule les titres. J'ajouterais en toute petite astérisque, c'est pas des choses qui font des grosses différences, mais vu comment c'est serré, il peut pas monter aussi sur le haut de la planète avec la Serbie, putain.
Si.
Si, on parle de Dream Team, on parle de machin avec tous, on dit genre ouais quand même machin, Hakim, David Robinson et Pat, ils ont fait la Dream Team et tout. La Serbie, tout en haut de la planète basket.
Oui, ça l'aiderait son dossier, tout à fait. C'est pas le critère qu'on met tout en haut.
Mais tu arrives à Los Angeles et tu fracasses tout le monde.
Ça aiderait son dossier. Oui, complètement, ça aiderait son dossier. Je suis d'accord.
On en fait quoi de Joel Embiid?
Très bonne question. Moi j'avoue que j'ai fait son dossier. Quand j'ai fait mon classement, pour moi, il n'y avait que deux possibilités de joueurs qui pouvaient entrer. Il y avait évidemment Jokic et il y avait peut-être Joel Embiid. Mm-hmm. Voilà. Je veux dire, quand je dis évidemment Jokic, je veux dire, je ne savais pas à quelle place j'allais le mettre, mais je savais que j'allais le mettre dans mes 10. On va déconner.
André Drummond n'a pas fait le cut.
Non, mais dans mes 10 pivots, toi aussi, non? Oui. Tu savais que tu allais mettre Jokic. Oui. Ta discussion, c'était plus Hakim, Wilt, nanana. Ok, Ewing, c'est derrière. Robinson, c'est derrière. Moses Malone, c'est derrière. Faut se rendre compte de la dinguerie, quand
c'est
même.
Énorme.
C'est énorme. Quand même, faut se rendre compte du truc. Mais oui. Bah, Joël, le truc, c'est que...
Lui, il a eu un pic.
Bah, le truc, c'est que le pic de Joël qu'on a connu là sur les saisons 2021-22, c'est 2022-23 où il est MVP. Ouais, c'est ça, c'est 2022-23. Quand il est MVP en 33 points, Dirbon, 4 passes, 1 contre ennemi ou quelque chose comme ça, qui domine vraiment des deux côtés du terrain, son pic est hallucinant. Et il fait partie des pivots MVP. C'est-à-dire que par exemple, Pat Ewing n'est pas MVP en tant que pivot.
Non, c'est là-dessus qu'il peut les passer, mais il faut la bagouze.
Ah ouais, alors même au-delà même de la bagouze, il faudrait aller au-delà de Dmitrov déjà aussi. Parce que Joël, c'est pas comme s'il était passé vite fait pas loin de la bagouze. Genre Joël, il a jamais vu de loin la bagouze.
Il connaît pas la fin du mois de mai.
Il sait pas ce que c'est, quoi. Et ça, c'est un vrai sujet. Là où Ewing, par exemple, pour l'instant, garde de l'avance, même s'il a jamais été MVP... Mm-hmm. Par exemple, ou des mecs, je suis désolé, même les mecs qu'on a cités, hein, pour l'instant, moi, Joël, il passe pas George Mikan, il passe pas, je sais pas, Bill Walton, faut voir, tu vois, genre, je sais pas trop. Ça sera un cas très intéressant, le Joël, le jour où on fera l'update du top 100. Comment tu classes Joël?
Bah, si on faisait un classement des pics sur une saison, il jouerait des coudes avec des très grands joueurs.
Évidemment, mais bon.
Et même avec Jokic, hein. Genre, moi j'entends quand il y a des gens qui ont dit que le pic de Embiid discute ou est légèrement meilleur que le pic de Jokic.
Alors, discute oui, meilleur non, pour moi, hein. Mais bien sûr, mais je suis d'accord sur le pic est
sur
fou.
Sur une saison. Hein.
Mais dans ce cas-là, dans ton top 15 all-time, t'as Tracy McGrady, quoi. Tout à fait. Genre, pardon, mais.
Mais c'est une autre manière de voir aussi les classements, c'est que t'as parfois des classements aussi. C'est intéressant. Imagine, je sais pas, on l'a fait là, les plus grandes saisons individuelles de l'histoire?
Oui, je pense, parce que chaque 2000, tout ça, on a dû le faire là. Tu sais, ça te dit chaque 2000, Jordan, enfin, tu hésites laquelle tu prends.
Enfin, peut-être oublier tes staffs.
Oui, tout à fait. Embiid aura un shot là dans
Shea, Jokic, Embiid.
Tout à fait. Yanis, tout ça. Non, mais bien sûr, ils auront tous un mot à dire. Sauf que là, dans un classement all-time des pivots, tu peux pas juste avec un pic de deux ans, un pic de saison régulière qui n'a rien donné en playoff, soyons quand même précis sur les termes. C'est pas comme si Joël, parce que attention, si Joël Embiid en 2023 il emmène les Sixers au bout, c'est pas la même histoire.
Ah bah bien sûr,
ça n'a plus rien à voir. Là le problème, c'est que le pic, c'est un pic de régulière, et moi c'est pour ça que je le garde hors top 10 et que j'ai encore pas mal de pivots devant. C'est parce qu'il va les manger au niveau du pic, mais en régulière, là où on l'attend. On espère, là, au moment où on parle, franchement, ça revient bien. En tout cas, en attaque, ça se passe vraiment bien. C'est intéressant. Après, faut voir comment il est entouré, ce que peuvent faire ces Sixers-là et tout. Puis, le temps avance, le temps ne joue pas pour lui. On parle quand même d'un mec qui a déjà une dizaine de saisons derrière lui. Il a même pas 500 matchs de NBA. 482, c'est écrit devant moi. Au moment où on fait cette vidéo.
Il n'y en a pas une au-dessus de 70.
Admettons, il n'y en a pas une au-dessus de 70.
Non, c'est chaud.
Voilà, c'est la santé. C'est très dur. Hein.
Il discute plus. C'est ce qui fait qu'il discute plus avec. Et pourtant, il n'a pas le même palmarès, hein, Bill Walton, qu'avec les entrées du top 10.
Enfin, Bill Walton, il a un palmarès. Hein.
Oui, c'est ce que je dis.
Ah, oui.
Bill Walton, il a un boule palmarès. Mais là, les places 11, 12, 13, 14, là, il y a Bilou.
C'est ça.
Hein.
Ouais,
bien sûr. Il y a Bilou et Embiid. C'est des saisons en fait, tu fais genre.
Il y a Wessenseld, il y a
Paris,
on a dit Mikan, Cowens, ce que t'as montré tout à l'heure. Enfin voilà, ces gars-là quoi. Donc ouais, non, ça rentre pas. Dites-nous si vous voulez rentrer Embiid dans les 10, comment vous faites? Et quels sont les mecs que vous enlevez du coup?
Et à quelle place vous mettez Nikola Jokic aujourd'hui?
Oui.
On va montrer le gros tableau.
Ouais.
Et voici donc le top 10 des meilleurs pivot time actualisés en 2026. Dites-nous qui est où. Extraordinaire. Moi, j'ai une dernière question pour toi, Alex. Est-ce qu'il est né et il existe le joueur qui peut aller chatouiller Karim?
Moi, je dis non. Moi, je pense que Victor, je crois beaucoup à casser la ligue et tout. J'ai des doutes et après, je demande vraiment à ce qu'il me montre le contraire dans le sens où faut se rendre compte de. C'est pas que je dis pas non. Je dis, je suis incapable de le dire aujourd'hui parce que c'est trop tôt dans la carrière de Victor Wembanyama.
Ouais.
Mais après, oui, il a les attributs pour. Après, là, t'as vu, dès le début, Victor se retrouve un petit peu limité. On fait tous très attention aux blessures parce que ce qu'on veut et ce qu'on lui souhaite surtout, au-delà des classements individuels, c'est de gagner. C'est de faire en sorte que son talent.
Premier play-off, j'ai
son
tellement
talent,
hâte.
Exactement.
J'ai tellement hâte des premiers play-offs de Wemby parce qu'on fait comment.
Il n'y a rien qui me frustrerait plus que genre Wemby qui se blesse le 18 avril. Ouais. Alors ça,
c'est l'enfer. Ouais. Mais par contre, si Wemby, première fois qu'il va en play-off, il est en finale de conf, mec, on fait comment.
Oh là là, ou qui sait, il casse des bouches et tout. Moi, c'est ça que je veux voir.
Parce c'est que ses premiers Jeux Olympiques, il allait en finale. Hein,
et frérot. Ça commence par là. Non mais ça commence par là.
Premier Jeux Olympiques, il était en finale.
Oui.
Et c'était le meilleur joueur de l'équipe de France. Ouais, et c'est le meilleur joueur de l'équipe de
voilà.
France.
Voilà.
Donc il a une destinée de malade.
On sait qu'il est capable.
Vas-y Victor.
Sauf que là, les mecs qu'on a mis dans ces classements-là, ils l'ont fait longtemps, fort. Ça a gagné beaucoup.
Ils ont cassé le jeu.
T'as attention.
Mais il
donc
peut...
dire d'un mec qui est dans sa troisième saison qui va casser le jeu, ce serait vraiment, à mon sens, vraiment trop prématuré.
Va non. A les arguments et peu.
Tout à fait.
Rien que ça, c'est extraordinaire.
C'est extraordinaire.
Un joueur français peut et a les attributs pour faire ça. C'est incroyable. Dites-nous qui vous avez évidemment dans ce classement. C'était magnifique de faire cette grosse update. Très très hâte de voir aussi Jokic. S'il l'a là en juin.
On se donne jusqu'à quand pour Jokic en juin? Encore 5-6 ans pour voir? Pour voir s'il accumule encore. Après, il sera trop vieux.
Oh, moi je dis que dans très peu de temps, il y aura peut-être une update du top 100 all time et qu'on verra si ça a évolué d'ici là. Allez, sur ce, on vous souhaite un bon lundi. On vous fait des gros bisous.
Ciao.
Et à lundi prochain pour un nouveau top 10 all time.
Bisous.
Ciao.